Bien, messieurs, dames, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue à l'Espace Mendès France pour cette matinée de travail sur le thème des conférences régionales du spectacle vivant. Un petit mot déjà pour recadrer, repréciser un petit peu cette matinée. C'est donc une matinée de travail qui va permettre à l'ensemble des quatre groupes de prendre un petit peu connaissance et conscience un petit peu des diverses dynamiques thématiques de travail des divers groupes. Vous avez participé à l'un ou à l'autre, plus ou moins régulièrement, de une à plusieurs fois. Et cette matinée est vraiment un moment pour essayer de mettre en commun les réflexions, les points de vue qui ont été partagés dans les divers groupes, mais aussi peut-être dans un deuxième temps, dans la deuxième partie de cette matinée, de dégager un petit peu des éléments communs, des choses qui se ressemblent, des choses qui divergent. Voilà, donc essayer de dégager un petit peu un point de vue commun. Chaque groupe, dans quelques minutes, aura une petite présentation d'environ une quinzaine de minutes qui sera suivie chaque fois d'un temps qui vous permettra de réagir, poser une question, avoir des précisions à chaque porte-parole de groupe. Chaque groupe présentera divers aspects dans des formes qui vont un petit peu être différentes, mais vous retrouvez dans chaque groupe, dans chaque compte-rendu ou dans chaque présentation pour les groupes, vous allez retrouver chaque fois des éléments de méthode, des problématiques abordées, des thèmes, et éventuellement, pour certains, des lignes de force qui commencent à émerger dans les échanges. Alors ce matin, pour finir cette petite introduction, je vous rappelle un petit peu le déroulé. Dans un premier temps, Pierre Blanc, conseiller à la DRAC, va un petit peu repréciser la démarche des conférences régionales, mais aussi apporter quelques éléments de comment ça se passe dans d'autres régions. Ensuite, chaque groupe présentera pendant une quinzaine de minutes son petit compte-rendu. Et dans un deuxième temps, nous aurons un temps d'échange et de débat sur ces lignes communes, on va dire. Dans la deuxième partie de la matinée, ce sera donc Jeannie Rouget qui assurera la médiation et l'animation. En dernière partie de cette matinée, on nous reprendra également un petit temps pour vous présenter un petit peu comment les divers coordinateurs des groupes envisage la forme de restitution de tout ce travail de vos groupes. Voilà. Sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre Blanc.
Bonjour. Ça marche, oui. Pardon ? Si, ça marche. Oui, donc je vais rappeler un peu l'origine et le cadre de cette conférence régionale du spectacle vivant. De façon assez brève, je rappellerai que donc c'était une volonté, un souhait du ministère de la Culture de mettre en place au niveau régional un dispositif de concertation, de réflexion partagée suite aux entretiens de Valois qui, eux, avaient été sur le spectacle vivant. Hein, je pense que tout le monde en a entendu parler, voire y a participé. Un dispositif de réflexion entre l'État, les collectivités et le secteur professionnel au niveau national. Donc, voilà, la DRAC, forcément, a mis en œuvre, a réfléchi à cette attente du ministère de la Culture et a proposé à l'automne 2009, et de façon officielle, le même jour que l'assemblée plénière du COREPS, cette proposition d'une conférence régionale du spectacle vivant. Voilà, vraiment, et l'exprimant, je crois, avec beaucoup de force, le souhait que ce soit une réflexion vraiment partagée, dont s'emparent tous les acteurs, tous les partenaires, et sur des sujets, des thématiques, sur une organisation qui n'était pas prédéfinie par le ministère de la Culture, par la DRAC, mais bien à construire tous ensemble. Ne nous cachons pas, cette proposition n'a pas reçu qu'un accueil favorable. Il y a eu notamment de la part de parties prenantes fortes au sein du COREPS, et pour ne pas le nommer des syndicats, et pour ne pas les nommer la CGT et le CINAVI, voilà, une impression que le ministère voulait seul reprendre des sujets, des débats, des réflexions, en ne considérant pas suffisamment une instance de dialogue forte et particulièrement dans la région Poitou-Charentes, qui est le COREPS. Ce n'était évidemment pas le souhait du ministère de la Culture, c'est pour ça que de la DRAC, c'est pour ça qu'on a proposé que cette conférence régionale du spectacle vivant se situe clairement dans le cadre du champ de travail du COREPS. Voilà. Donc, nous sommes dans ce cadre-là depuis l'année 2010. Les travaux en tant que tels Ça prend toujours un peu plus de temps que prévu et que souhaité. On commençait, en gros, je pense à l'été 2010, hein, à peu près. Voilà, sur des angles d'approche donc multiples, au nombre de quatre, d'où les quatre groupes de travail, qui évidemment ont été créés un peu sur des propositions d'enjeux qui semblaient importants au ministère de la Culture, mais qui ont été élaborés, proposés, précisés de façon plus partagée. Pour la mise en œuvre de la conférence, on s'est donc appuyé et on a évidemment sollicité l'accord de l'agence régionale. Donc on s'est appuyé sur l'agence régionale, sur le chargé de mission de coordination, donc Philippe du COREPS, sur les forces vives, le savoir-faire, les compétences de l'agence, et également au sein de celle-ci, particulièrement l'observatoire, puisque c'est aussi évidemment une composante importante pour aider à la connaissance, à la compréhension, voire à la conduite de travaux spécifiques d'analyse de ce secteur. Depuis donc mi-2010, il y a eu donc des réunions de groupe de travail. Vous en avez le rappel, je crois, dans les documents. Vous y avez participé, vous et puis quelques autres qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Évidemment, on vous en remercie. Je crois que si besoin était, vous pourrez indiquer qu'il y a effectivement eu une liberté de parole, semble-t-il, d'échange, des interventions particulières pour éclairer ce sujet, ce domaine, peut-être pour prendre un peu de distance. Bref, un contenu, vraiment, je crois, qui vous appartient et qui n'est pas celui du ministère de la Culture. Cette conférence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes a, dès le départ, été présentée comme une démarche à durée déterminée. Hein, on n'était pas dans un processus installé de façon pérenne. Voilà, il nous semblait qu'il pouvait y avoir, à un moment donné, un travail un peu spécifique, un peu plus approfondi sur différents sujets, mais qu'en même temps, ces travaux ne devaient pas empêcher d'autres travaux, d'autres processus, d'autres concertations, et notamment, évidemment, je le redis encore, les travaux du COREPS. Brièvement, puisque Philippe l'a dit dans son introduction, mais je ne vais pas avoir forcément beaucoup d'informations, qu'est-ce qui se passe au niveau national et dans les autres régions? Je pense qu'on est là dans la situation qui est celle, en fait, de la région Poitou-Charentes et, encore une fois, de son COREPS, qui est un peu particulière, puisqu'en gros, on est vraiment une région peut-être un peu emblématique sur la réalité d'un dispositif d'échange, de dialogue social, de concertation, lui installé de façon pérenne, lui vraiment installé formellement, un dispositif de concertation auquel des moyens sont donnés pour pouvoir travailler, pour qu'il y ait des travaux entre les réunions du comité de pilotage, pour animer, organiser des groupes de travail. Donc encore une fois, et vraiment je les en remercie, les personnels de l'Agence régionale du spectacle vivant qui s'est activement paré de ces sujets-là. Donc du coup, on est sur la conférence comme sur le COREPS, sans doute, je ne vais pas dire la région, mais une des régions où il y a une vraie réalité de travail, de concertation, et pas seulement de façon ponctuelle. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup plus de précisions sur les autres régions, mais en tout cas, cette situation globale est encore celle qui existe. Redire maintenant, évidemment, qu'on arrive dans la phase bientôt de conclusion de vos travaux, avec la nécessité vraiment de travailler aux conditions de restitution et de partage des réflexions, des propositions et des questions que les groupes ont fait émerger pour que ce travail-là soit rendu le plus explicite et que, quand même, dans une période de doute, d'interrogation, voire pour certains d'inquiétude, la matière que vous avez pu engendrer, générer, puisse être partagée et puisse être le plus utile. Je redirai ce que sans doute beaucoup m'ont déjà entendu dire, c'est que je pense quand même que, et la DRAC pense vraiment que, c'est en favorisant la meilleure connaissance des enjeux, des actions, des acteurs, du public concerné, mais aussi évidemment de l'économie de ce secteur, de comment il est structuré, qu'on peut au mieux faire en sorte que ce domaine soit pleinement considéré pour ce qu'il est, qu'il soit du coup pleinement considéré et connu au mieux par tous ceux qui ont quelques pouvoirs de décision et d'intervention sur ce secteur-là. Évidemment, au premier rang, sans doute, les partenaires publics qui sont des partenaires financiers, mais aussi évidemment stratégiques de ce secteur-là, et qu'à un moment donné, où des décisions, comme toujours, mais peut-être encore plus dans cette période qu'il y a quelques années, où des décisions parfois un peu lourdes peuvent être prises hein, en termes de restructuration, de structuration, je vais peut-être pas forcément dire de développement, mais en tout cas de réorganisation sont prises ou doivent être prises, qu'elles le soient en toute connaissance de cause et donc en connaissance aussi des enjeux et des conséquences, des répercussions que ces décisions peuvent avoir. Voilà, je pense qu'on n'est pas obligé d'être sûr du pire. Je pense quand même que personne n'a un objectif assigné de mettre à mal le secteur du spectacle vivant. Mais en même temps, évidemment, les difficultés économiques s'imposent à tout le monde. Et qui, voilà, il nous appartient aussi dans les travaux qui vont, qui sont ceux de cette conférence et de ces groupes de travail, qui puissent apporter de la matière pour, encore une fois, intervenir au mieux dans ce secteur. Donc aujourd'hui, il est vraiment proposé de travailler sur les modes et le calendrier de restitution, qui lui est forcément un peu fixé, mais sur les modes de restitution et de partage de vos travaux, pour qu'ils puissent ensuite être largement consultables, mis à disposition notamment des instances ensuite qui ont vocation à poursuivre ce dialogue-là, et encore une fois le COREPS, mais aussi sans doute plus largement les réseaux, les opérateurs, ça sera à voir aussi quelles sont les meilleures dispositions, bon avec l'agence qui a quand même une capacité aussi de diffuser cette information-là, importante. Voilà, donc on est en phase de conclusion de cette étape de travail. D'autres travaux, évidemment, vont suivre. Le COREPS, qui se réunit cet après-midi dans son comité de pilotage, aura aussi, évidemment, à se positionner sur ces points-là. Aura sans doute aussi le souhait, puisque c'était un peu un sujet de litige, d'élargir aussi ces réflexions-là à un domaine un peu plus large, et notamment celui du spectacle enregistré, hein, puisque là, vous l'avez remarqué, on n'est que sur le domaine du spectacle vivant. Ben voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Et puis maintenant, ben, il faut continuer à travailler. Merci.
Merci Pierre. Pendant que les porte-paroles des deux premiers groupes, donc Éric Sprogis, Michel Adam et Catherine Muller viennent s'installer, des petits éléments déjà de rappel. L'ensemble des comptes rendus de tous les groupes sont à votre disposition sur le site de l'agence. Vous pouvez le voir, il y a des petits onglets pour chaque groupe. Donc vous pouvez retrouver un petit peu les éléments de contenu. Deuxième élément, dans votre dossier, vous avez bien évidemment un petit rappel des dates, la fréquence de réunion des groupes. Et enfin aussi, vous donnez un petit chiffre, on s'est amusé, façon de parler avec Fernande Véron, la personne qui nous aide à organiser principalement les réunions, à compter le nombre de personnes qui ont participé au moins une fois à l'ensemble des réunions. Et sur les quatre groupes, on a comptabilisé plus d'une centaine de personnes. Alors certaines personnes ne sont venues qu'une seule fois, elles étaient disponibles, d'autres sont venues plus souvent. Mais au moins une centaine de personnes ont participé au moins une fois à l'une ou l'autre des réunions. Voilà, c'est aussi important un petit peu, vous permettre un petit peu de vous situer dans la démarche collective. Et nous laissons tout de suite la parole donc à Éric Sprogis, porte-parole du groupe Enseignement artistique et professionnalisation.
Donc peut-être là. Ça marche. Le premier point peut-être à relever dans le travail qui a été fait, c'est le fait même qu'il existe un groupe de travail sur l'enseignement artistique dans ces conférences du spectacle vivant. C'est pas automatiquement toujours considéré comme une évidence. Donc, et l'autre point de méthode ou que le groupe a eu à se poser au cours de ces différentes réunions. C'était que la plupart des participants ont déjà une certaine habitude dans notre région de travailler ensemble. Hein, c'est une chose qui se fait fréquemment, notamment au sein de la conférence régionale de l'enseignement et des formations artistiques, donc la CREFA, qui avait déjà mené un travail d'ailleurs l'année précédente, organisé au sein de à l'intérieur de chacun des départements de notre région. Donc les deux questions qu'on a eu à traiter, ou les deux défis, je ne sais pas de quelle manière, qu'on avait à relever, c'est d'une part d'essayer d'aller plus loin que ces très nombreuses réflexions anciennes qui existent dans notre région sur l'enseignement artistique, et on pourrait dire aussi d'une manière générale, y compris au niveau national, c'est un des constats qu'on faisait, c'est que les rapports, les colloques, les séminaires, les stages, les publications sur l'enseignement artistique, avec toujours un peu les mêmes constats récurrents et réels, ne manquent pas depuis une vingtaine d'années. Et donc la question qu'on se posait, c'est comment évidemment aller à la fois plus loin, ou de manière peut-être plus concrète sur un certain nombre de points, et comment réellement pouvoir décliner ça à partir des réalités de notre région. Donc le groupe de travail comprenait des personnalités diverses, qui représentaient aussi bien des domaines différents, comme la musique, la danse par exemple, et différents types d'esthétique, mais aussi le secteur de la formation initiale, le secteur de l'enseignement supérieur, mais aussi des structures culturelles qui intègrent dans leur action des actions de formation ou d'enseignement artistique. Donc la méthode, après la première réunion donc, du mois de juin, où on a balayé et échangé sur un certain nombre de problématiques ou de questions qui se posaient, qu'on va résumer très très rapidement ensuite, il a été choisi comme méthode de travailler, de pouvoir produire à l'issue de nos travaux un texte rédigé, s'efforçant de présenter de manière cohérente à la fois les problématiques, les enjeux à relever et un certain nombre de préconisations dont ensuite les différents responsables, qu'ils soient publics ou professionnels, qu'ils pourront prendre en compte ces préconisations. Et donc, ça a été une méthode, donc, suite à cette première réunion, donc, qu'on a appelée entre nous de texte martyr, c'est-à-dire donc d'un texte rédigé qui ensuite, au cours de chacune des réunions, a été amendé, modifié, corrigé. Et qui devrait être, on l'espère, validé dans sa version finale à la prochaine réunion, donc qui a lieu le 3 mai, je crois, le 3 mai prochain. Donc à partir de cette date-là, ce document, qui fera une dizaine de pages, sera disponible, plus quelques annexes sans doute, avec quelques chiffres pour faire sérieux. Donc ça c'est cette méthode de travail. Donc on peut dire que les problématiques qui ont été soulevées et qui inspirent ce texte, qui va être résumé tout de suite après, ça peut s'organiser autour de quatre grands secteurs quatre grands secteurs de réflexion qui ont été produits qui sont sortis du groupe. D'une part, que la notion d'enseignement artistique ça couvre en fait un très large champ de types d'action, et que ce serait une erreur vraiment de le réserver uniquement aux établissements labellisés comme étant des établissements d'enseignement artistique. Donc c'est à la fois donc des actions très différentes, des structures, des acteurs et des professionnels, donc pas simplement des établissements d'enseignement, mais bien entendu d'enseignement spécialisé, mais également tout le secteur de l'éducation nationale, mais aussi tout le secteur associatif, mais aussi tout le secteur je l'ai dit tout à l'heure, donc des structures de diffusion et de création culturelle qui intègrent depuis très longtemps, et particulièrement dans notre région, que ce soit dans la formation initiale ou la formation professionnelle ou supérieure, qui intègrent des actions de type enseignement. La deuxième problématique, c'est que l'enseignement artistique, qu'on a appelé... est-il vraiment une priorité ? Donc, non, tu peux revenir. Voilà, tout étant dans le point d'interrogation, la conviction que l'enseignement artistique contribue à définir les dynamiques culturelles qui sont à l'œuvre dans un territoire, le nôtre au niveau régional, en ce qui nous concerne. Troisième problématique, c'est que aujourd'hui, début du 21e siècle, l'enseignement artistique, dans toutes ses composantes, est marqué par très fortes caractéristiques d'incertitude quant à son objet, sur quoi il doit déboucher. Et cette incertitude, elle est aussi bien liée aux évolutions, aux bouleversements, au télescopage esthétique dans chacun des domaines concernés. Elle est liée à l'évolution, évidemment, à la fois démographique, mais aussi démocratique de l'enseignement. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, et c'est bien normal, on considère que l'enseignement artistique, comme plein d'autres domaines de la vie humaine et sociale, est un droit pour tous. Donc, ça a modifié en profondeur la nature des publics concernés et visés. Et les évolutions technologiques, donc notamment dans le domaine de la diffusion et de la création artistique, qui ont bouleversé aussi les conditions, y compris pédagogiques, d'enseignement. Ce qui crée aussi donc, qui crée deux problèmes de certaine manière hein, qu'on a identifié aussi dans notre texte. À la fois la question de la reconnaissance de la place que l'enseignement artistique doit jouer dans la dynamique culturelle, dans les politiques culturelles de façon générale. Et par ailleurs, un problème d'identité réelle qui se pose, notamment pour les professionnels qui interviennent dans le domaine de l'enseignement artistique, que ce soit les enseignants dans toutes leurs composantes ou les artistes intervenants. Et le quatrième constat, c'est pas vraiment une problématique, c'est que la région Poitou-Charentes offre, à la fois pour des raisons historiques, enfin des tas de raisons qu'on pourrait analyser, offre une situation tout à fait privilégiée qui permet... ce débat qui permet cette réflexion et qui permet et qui devrait pouvoir permettre cette action, notamment par l'existence de très nombreux et étroits réseaux existants déjà depuis longtemps entre les structures et entre les professionnels. Donc voilà, on peut donc limite, je vais pas faire trop de paraphrases de ce qui est écrit qui représente. Donc ça on vient d'en parler. Donc c'est les différents, c'est les trois grands points. Hein, le fait qu'il y a l'enseignement spécialisé, l'éducation artistique à l'école et son articulation avec le développement culturel. Voilà. Donc quatre problèmes qui ont été relevés, hein, qui figureront dans ce texte. Donc un problème de légitimité et de reconnaissance des professionnels, je viens de l'évoquer. Question d'aménagement du territoire, donc je crois que c'est un point très important. Hein, ce qui caractérise aussi l'enseignement artistique, c'est le fait qu'il est très difficilement compréhensible par ceux qui vivent à l'extérieur de ce secteur-là. Les professionnels, déjà, les professionnels qui ne sont pas, les professionnels du milieu culturel et du milieu artistique, qui ne sont pas directement investis dans l'enseignement, beaucoup de mal à comprendre, alors ne parlons pas des usagers potentiels, hein, et sans parler des étrangers par rapport à notre système. Donc il y a des dispositifs qui ont été développés au niveau national pour clarifier la lisibilité et l'organisation de l'enseignement artistique, que ce soit du point de vue du cursus de formation entre l'enseignement initial, l'orientation professionnelle et l'enseignement supérieur. Mais on sait très bien, on sait que ce n'est pas encore, sauf dans notre région précisément, ce qui est intéressant, systématiquement appliqué dans notre pays. Et par ailleurs, la région Poitou-Charentes, on le sait, donc a adopté un schéma régional des enseignements et des formations artistiques et culturelles, bon, qui est un outil hein, dont on s'est emparé aussi, qui vise aussi à améliorer cette clarté et cette cohérence. Problème d'égalité, égalité... Dans l'accès même aux établissements, mais un problème d'égalité entre les différents domaines, les différentes esthétiques, que ce soit classiques, actuelles, traditionnelles, etc., donc, qui est un véritable problème. Égalité aussi entre les collectivités, entre les communes, entre les départements, au sein de la région, qui ne bénéficient pas automatiquement, qui ne disposent pas automatiquement des mêmes moyens de prendre en charge cet aspect de leur action, c'est donc en l'occurrence l'action culturelle, l'enseignement artistique, pardon. Et enfin, un problème d'identité et d'adaptabilité, donc qui pose plus fondamentalement les questions de contenu pédagogique en regard des évolutions esthétiques et technologiques des domaines enseignés. Donc, quatre enjeux, je propose de vous les laisser lire. Hein, si nécessaire dans la discussion, on pourra les développer. Avec comme objectifs principaux, c'est-à-dire pourquoi il y a des objectifs principaux, c'est parce qu'effectivement, on se rend compte que si on reprend ces quatre enjeux dans leur entièreté, on se rend compte que c'est un chantier énorme qui devrait être ouvert, hein, et qu'il faut être aussi raisonnable quant à la faisabilité de ces actions. On verra ensuite les préconisations. Donc il nous semble qu'il faut être conscient qu'on ne pourra pas tout faire, qu'il faudra définir un certain nombre de priorités. Et les deux priorités qui ont été définies comme axes, hein, on verra tout à l'heure pour les préconisations, c'est celle donc, qui consiste à travailler sur la notion même d'artiste enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre région? Peut-être que qu'est-ce que ça veut dire d'une façon générale d'ailleurs. Voilà. Et puis évidemment de travailler sur les actions de formation des professionnels. On voit bien comment on a centré, les choses ont été centrées assez fortement sur les acteurs de l'enseignement artistique. Voilà. Et enfin, c'est sur les préconisations. Donc, trois objectifs qui se sont poursuivis, puis ensuite elles seront déclinées sur la diapositive suivante. Donc, je vous laisse lire. Hein. Donc, il n'y a pas de.
Oui, parce que.
Comment ? Ah, pardon. C'est vachement utile, alors. C'est vachement utile d'avoir un PowerPoint, alors. Hein. Bon, ça va. Alors, les préconisations donc, qu'on va détailler sur la diapositive suivante, en fait, visent à améliorer la connaissance, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, de la réalité de l'enseignement artistique, mais en lien avec le développement territorial, vise à améliorer la formation des professionnels et vise à améliorer les conditions d'exercice de ces professionnels, donc de ces professionnels de l'enseignement artistique qui sont par ailleurs pour la plupart engagés également dans l'action et, artistique. Voilà. Et donc cinq préconisations, un grand chantier. Enfin, général qui est proposé de ce qu'on appelle faire le point d'une certaine manière, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir une lisibilité de tout ce qui existe aujourd'hui comme articulation entre les structures, entre les acteurs, avec deux domaines, hein, qui ne sont pas précisés ici. D'une part, entre les structures, enfin, les établissements d'enseignement artistique et les structures de diffusion et de création. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent, de toute nature, de petites initiatives jusqu'à des très grands projets, des très, très grandes actions, et qu'il serait peut-être utile, enfin, de les inventorier et de les évaluer, donc en définissant un certain nombre d'indicateurs et de critères pertinents qui nous permettraient effectivement ensuite de pouvoir, on y viendra tout à l'heure, généraliser ces expériences, puisque la question de la connexion des expériences est sans doute l'une des grandes difficultés aujourd'hui, enfin la généralisation et la connexion des expériences, c'est sans doute l'un des principaux enjeux aujourd'hui, puisque on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qu'elles ne se connaissent pas et on ne les exploite pas. L'autre secteur où il faudrait faire le point, c'est les collaborations entre l'enseignement général, l'école, d'une façon générale, dans l'enseignement général, dans tous les établissements dépendants de l'éducation nationale, et l'enseignement artistique, que ce soit en termes de pratique vocale, d'orchestre à l'école, de classe horaire aménagée, d'aménagement d'horaire, de classe à projet artistique, de partenariat entre structures culturelles, établissements scolaires, etc. L'action des animateurs culturels dans les lycées, les chartes qui existent, les politiques événementielles. Il y a énormément de choses qui se passent. Il serait peut-être temps aussi de faire le point sur ce qui existe et aussi d'en tirer un certain nombre de leçons et de pouvoir évaluer ces actions. On a défini, je ne développe pas ici, vous le verrez plus tard dans le texte, enfin plus tard dans l'année, quand le texte sera terminé, donc une méthode aussi pour effectuer cette évaluation, donc avec des propositions de critères et d'indicateurs. Le deuxième, évidemment, qui est un terme très vague tel qu'il est repensé, les contenus et l'organisation pédagogique, c'est principalement ceux de donner les moyens aux intervenants, quels qu'ils soient dans le domaine de l'enseignement artistique, de pouvoir faire évoluer et adapter leurs dispositifs d'enseignement et les contenus d'enseignement, précisément à l'évolution radicale qu'a connue donc l'environnement social et surtout technologique de l'enseignement artistique. Comme on le disait un peu en plaisantant, mais ça va figurer dans le texte quand même, pas en plaisantant, hein, mais plutôt en anecdote, pour la première fois dans l'histoire peut-être de l'humanité, avec l'évolution des technologies, les élèves maîtrisent certaines techniques liées notamment à la musique mieux que leurs enseignants. Ce qui n'est pas sans quand même nous imposer un peu une certaine réflexion à ce niveau-là. Évidemment, on faisait souvent de boutades, mais qui mériterait sans doute d'être réfléchi. Troisième axe, donc qui est lié au précédent, donc c'est de développer des actions de formation avec des priorités, notamment pour les responsables d'établissement. Comme vous le savez, en France, il existe, et notamment avec des déclinaisons en Poitou-Charentes, des structures de formation diplômantes de pédagogues. Hein, que ce soit donc dans les CFEDEM ou au sein de CSMD en Poitou-Charentes ou CFMI, donc pour la formation des enseignants ou des intervenants. Il existe un peu partout, c'était une des grandes politiques de l'État d'ailleurs depuis une vingtaine d'années. Mais il n'existe pratiquement pas, à part une petite formation pour quelques étudiants au CNSM de Paris, de formation des directeurs, des responsables d'établissement. C'est sans doute l'une des priorités qui pourrait être développée, au moins au titre de la formation continue et professionnel, si ce n'est pas en formation initiale. Mais aussi, donc, deuxième priorité, de donner des outils, j'y ai fait référence, pour qu'on puisse intégrer dans l'enseignement et avec détermination, on va dire, les nouvelles technologies, pour faire très vite, hein, et surtout donc, les comportements que cela induit chez les élèves. Et la troisième idée qui a très fortement marqué le groupe, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'enseignement artistique repose de plus en plus sur des parcours personnalisés des élèves, sur des projets personnels, donc une autonomie des élèves, et que c'est aussi une attitude, d'une certaine manière, et c'est un contenu qui devient de plus en plus présent, et pour lequel les acteurs, les professionnels, ne sont pas automatiquement préparés, et ça doit devenir, c'est l'autre, la troisième priorité qui a été retenue en matière de formation. Voilà. Identifier les complémentarités entre les structures, je ne développe pas, ça rejoint assez fortement le premier point, hein, donc d'évaluer un peu tout ce qui existe comme collaboration. Et enfin, un troisième point, donc de réfléchir à la manière dont on pourrait encore améliorer l'aménagement du territoire, notamment sur le plan des lieux de pratique, que ce soit des studios de danse, que ce soit des lieux de pratique, notamment pour la musique actuelle, hein, c'est un constat qui avait été fait d'ailleurs dans le cadre du rapport qui avait été fait sur la musique actuelle dans notre région. Notre région n'est pas énormément dotée dans ce domaine-là, et c'est sans doute là aussi donc un travail qui serait nécessaire de faire, d'identifier, d'améliorer, d'accroître ces lieux de pratique, de répétition, etc., et de pouvoir aussi informer, parce qu'il existe des choses aussi sur ce qui existe, et éventuellement d'envisager des partenariats et des conventions pour que ça puisse être mieux utilisé. Je crois que j'ai 3 minutes.
Merci Eric. Avant de passer la parole au groupe suivant, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des précisions que vous souhaiteriez que Eric ou des membres du groupe apportent ? Êtes-vous présenté ?
Maud Brun, chargée de mission spectacle vivant à la région Poitou-Charentes. Simplement, dans l'intitulé du groupe, il y a le terme professionnalisation. Et dans les débats que vous avez eus, il me semble que vous avez surtout circonscrit à la professionnalisation des encadrants de l'enseignement artistique. Est-ce que vous avez aussi abordé la question de la professionnalisation d'une partie des praticiens, des publics en fait, de l'enseignement artistique ?
Tu précises. Je fais une réponse parce que cette question a été posée effectivement lors de la dernière réunion. Donc, on a abordé la question de la formation professionnelle, hein, notamment par le biais de l'enseignement supérieur et de sa structuration. Est-ce que c'est un autre aspect que tu voulais aborder là ?
Notamment pour ce qui est de l'enseignement supérieur, des praticiens, ceux qui sont le public des établissements d'enseignement
supérieur.
Oui.
C'est traité, il y a tout un chapitre sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, mais il a été dit effectivement qu'il fallait sans doute muscler un peu la réflexion sur ce point-là. Mais entre autres, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, en tout cas en ce qui me concerne, j'engage pas tout le groupe à ce niveau-là, j'attendais aussi les échanges, puisque cette question-là, évidemment, elle va traverser les différents groupes.
Hein. Oui, puis elle fait un chaînage avec le groupe 2,
absolument.
À mon avis.
Peut-être un élément de réponse à la remarque de Maud, c'est que dans l'accord cadre sur le spectacle qui a été signé par les syndicats, l'État, etc., il y a un chapitre sur la question de la reconversion professionnelle, notamment des artistes praticiens, pour acquérir une qualification complémentaire. En tous les cas, ça fait partie d'un des objectifs sur comment un artiste en exercice peut à un moment évoluer dans sa carrière, acquérir une qualification complémentaire et peut-être évoluer vers de l'enseignement ou vers d'autres champs.
Ouais, je cherche la partie. Oui, bon, y a un chapitre sur cette question-là. Je cherche, mais bon.
D'autres questions, remarques ?
Et comment, Odile Azaguri, comment est-ce qu'on réagit à la position de l'Éducation nationale, justement, sur les financements qui sont quasi inexistants et sur cette nécessité et cette conviction que l'art à l'école, c'est. Ça construit.
Donc, de ce point de vue-là, dans le texte qui sera le texte final, ce qui sera indiqué, donc il y aura une liste impressionnante, exhaustive de tous les dispositifs d'éducation et d'enseignement artistique prévus par l'Éducation nationale, dont un représentant du rectorat nous a fait l'honneur de décrire ça. Donc, et le groupe a décidé effectivement d'opposer cette liste exhaustive à une réalité qui s'exprime par le fait que, d'une part, dans la réalité, ces dispositifs ne sont pas autant mis en œuvre qu'on veut bien le dire, et que, par ailleurs, reconnu d'ailleurs par le président du rectorat, que ces dispositifs fonctionnent pour l'essentiel sans financement de l'Éducation nationale et ne reposent évidemment que par des financements qu'il s'agit de trouver à l'extérieur de l'Éducation nationale, en particulier auprès des collectivités territoriales, que ce soit les intervenants en milieu scolaire ou que ce soit les différentes interventions qui sont prévues. C'est cette analyse-là, enfin, c'est comme ça que les choses seront présentées dans le document final.
Cette question des relations avec l'Éducation nationale en général a été quasiment évoquée dans tous les groupes. Hein, structuration artistique, ça a été évoqué dans le troisième groupe, groupe population pratique publique. Donc je vous propose peut-être de garder cette question des relations des acteurs du spectacle vivant avec l'Éducation nationale, peut-être dans les échanges un peu généraux tout à l'heure.
Et sachant qu'il y aura, il y a encore un atelier à venir sur la question de l'éducation artistique, justement, il doit rassembler plusieurs groupes. Donc le chantier n'est pas encore achevé en particulier ouais. Concernant ce domaine-là.
Donc en fait, pour résumer, l'Éducation nationale occupe une petite part, une part importante du point d'interrogation dont je parlais tout à l'heure. Est une priorité. Mais elle n'est pas le seul à pouvoir partager ce point d'interrogation, c'est ce qu'on a voulu dire aussi. Oui.
Bien, nous remercions Eric comme porte-parole et animateur du groupe. Et nous allons donc passer au deuxième groupe, le groupe qui travaillait sur les questions de structuration artistique et culturelle. Et nous allons donc laisser la parole à Catherine Muller et Michel Adam.
Ça passe. Oui. Vous m'entendez ? Alors, nous, on va surtout vous présenter une méthodologie plus que... on n'est pas allé aussi loin déjà dans la structuration de la synthèse que ce que vient de faire le groupe que représente Eric. Donc, nous, en termes de méthodologie, ça a été un peu désordonné. Ça a fluctué selon le type de participants qui étaient présents. Quelquefois, on avait essentiellement des diffuseurs. Quelquefois, on avait essentiellement des équipes artistiques. Et donc, les problématiques n'étaient pas abordées de la même façon. On a eu un nombre de réunions plus nombreuses également. Donc, voilà, ça, vous allez avoir des résultats qui ne sont pas du tout les mêmes sur ce qu'on va présenter. Parmi donc en invité extérieur, la présence de Michel Adam, qui est sociologue, nous a amené son regard très précieux sur culture et développement durable. Ça a irrigué l'ensemble du travail. Et c'est pour ça qu'on présentera ensemble le travail. Il présentera la troisième partie. Donc, voilà, sur le premier tableau. Donc, les éléments de synthèse, on est en train de travailler sur des éléments de synthèse, pour le moment, en trois tableaux. Ça ne veut pas dire qu'au final, trois tableaux vous seront restitués. Mais en tout cas, ça nous permet de rassembler l'ensemble des choses qui se sont dites de manière un peu désordonnée dans nos réunions. Alors, donc, il y a un premier tableau qui croise acteurs et fonctions, un deuxième qui croise acteurs et problématiques, et un troisième tableau sur valeurs, principes d'action pour un socle commun avec quelques éléments de préconisation. En ce qui concerne le tableau 1, je pense qu'il restera sous la forme d'une cartographie, vraisemblablement. La question, c'était parce que c'était très important de comprendre qui fait quoi et de bien identifier acteurs et fonctions. Et ça a été déjà pas si évident que ça. Donc pour le moment, je vous les liste et puis je vous en parlerai un petit peu plus. Donc les cinq types d'acteurs identifiés, ce sont 1, les équipes artistiques. Dedans, on peut dire allez, les compagnies, les groupes, les collectifs, les ensembles musicaux. Voilà. Des structures à vocation de création et de production, dans lesquelles on range les centres dramatiques régionaux, nationaux, chorégraphiques, les orchestres permanents. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Structure à vocation de diffusion, j'expliciterai après, hein, où on y met les scènes nationales, conventionnées, SMAC, Théâtre de Ville, etc. C'est pour vous donner quelques... Et les collectivités, donc tous les services culturels des villes, des agglomérations, conseils régionaux, généraux, etc. Et la partie qui est un bloc réseau, structure d'accompagnement, qu'on a aussi présenté en trois parties, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, on a cinq types d'acteurs identifiés, cinq fonctions, création, production, diffusion, sensibilisation et formation. Alors, d'emblée, ça nous a posé... Oui, tu peux montrer. Alors, ce tableau, il est bien plus rempli que ça. Hein. On vous l'a juste proposé. En plus, il a sauté complètement dans le changement entre les sur les différents sur l'ordinateur. Simplement vous la présenter pour vous montrer comment ça se croise, comment ça va se croiser. On n'a pas le temps de lire du tout ce qu'il y a dedans. Simplement, on a déjà rencontré des problèmes de sémantique, comme je vous disais tout à l'heure, pour nommer les acteurs. On s'est tout de suite heurté au terme de structure. On utilisait le terme de structure pour tout. Alors, structure, Michel, qui venait de l'extérieur, nous disait, mais une compagnie, c'est aussi une structure, un lieu de diffusion, c'est aussi une structure, voilà. Donc cette notion plurielle nous a amené à nous référer à des nomenclatures précises. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a appelé structure à vocation de création et de production. Ça ne veut pas dire que ces structures ne font pas du tout de diffusion. Elles ont un volet de diffusion, mais majoritairement, dans la nomenclature du ministère, on les appelle comme ça, parce que majoritairement, leur action est tournée en direction de la création. Les autres sont à vocation de diffusion, font aussi de la création, mais majoritairement, leur action est tournée vers la diffusion. Voilà, donc il nous a fallu vraiment déjà bien travailler sur ces notions-là. En ce qui concernait les réseaux, je vous ai dit, on les a regroupés en trois familles, momentanément, parce qu'on cherche encore un peu. Donc, il y a les réseaux de production et de diffusion. Donc, là-dedans, on trouve le G19, mais ça peut être aussi les structures d'éducation populaire, comme la Ligue de l'enseignement, les foyers ruraux, qui font de la production et diffusion. Les réseaux de coopération, comme le pôle régional des musiques actuelles. Voilà, vous avez tout. Alors, ça, c'est la première famille des réseaux. La deuxième, qui est les lieux ressources, comme la RSV. Et la troisième, qui est tout un ensemble de structures d'accompagnement, dans lequel on compte notamment des réseaux de production comme Bellocane, des développeurs d'artistes, des tourneurs, toute une série d'acteurs qui sont publics et privés. Concernant les fonctions, ça n'a pas été plus simple. Et une des difficultés principales a été finalement à donner le résultat de bien séparer création de production. On s'est rendu compte que tout le monde mélangeait les deux et parlait indifféremment de production quand il s'agit de diffusion, etc., y compris dans la dénomination des structures. Donc, on appelle création ce qui concerne la conception artistique, le temps qui est propre à l'artiste. et la production qui est la mise en réalisation de cette idée avec ou sans partenaire. Ça paraît évident comme ça, mais dans la manière dont on s'adressait les uns aux autres, ça a été source de grande confusion. Dans les croisements, si on veut reprendre cette question de la création et de la production, en croisant la fonction de création avec les différents types d'acteurs, on se rend compte que par nature et par statut, la fonction de création ne se retrouve que chez deux types d'acteurs constitués, les équipes artistiques et les structures à vocation de création-production, qui sont majoritairement dirigées par des artistes. Donc c'est toujours l'artiste qui est au centre des choses. Par contre, tous les autres acteurs se retrouvent dans la fonction de production. Voilà, c'était une des manières dont la mise en tableau nous éclairait. Donc voilà, on a repris pour chaque fonction, on a listé les différents modes de fonctionnement possibles des acteurs. Donc là, si par exemple on choisit de s'intéresser aux équipes artistiques, eh bien, on peut se dire qu'en production, par exemple, je ne dirais que ça, eh bien, les équipes artistiques font de la production soit en s'autofinançant, soit avec de la subvention publique, soit avec de la coproduction avec une structure à vocation de production ou de diffusion, ou peuvent aussi faire de la coproduction pour d'autres équipes. Voilà, donc on a fait ce travail pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des fonctions. Voilà. Donc ça, vous aurez tout ça, ben on va retravailler bien sûr, hein. C'est à reprendre avec l'Obs qui nous alimente, mais ça je pense qu'on restera sous la forme d'un tableau. En ce qui concerne un tableau numéro 2 de croisement entre acteurs et problématiques, au départ, on avait de regrouper les choses en deux tableaux, un qui regroupait contexte-constat et l'autre problématique-questionnement. Et on a fini par tout fusionner. Et dans le tableau que vous verrez après, on a commencé par aborder les contextes, le contexte qui est un contexte de crise, dit par l'ensemble des acteurs. De ce contexte, pour chacun des acteurs, découle un certain nombre de problématiques partagées. Donc, on a donc mis en ordonnée ces problématiques qui sont réinterroger le pacte institutionnel, réinterroger le modèle économique, alors ça peut être aussi bien pour les compagnies que pour les structures culturelles, interroger, alors on a mis des équilibres, mais en tout cas la question de l'équilibre entre le public et le privé, le déséquilibre de l'offre et de la demande en ce qui concerne le nombre de spectacles et le nombre et les possibilités de diffusion, la question des nouvelles esthétiques, et là effectivement il y a beaucoup de choses, il y a de nouvelles esthétiques qui existent déjà depuis quelque temps comme les arts de la rue, les arts du cirque, mais il y en a encore de nouvelles à intégrer, surtout on parle des arts numériques qui ont voilà peu de visibilité, qui ont besoin de prendre leur place. La question de l'accompagnement des compagnies, des structures, et les questions autour de la sensibilisation et de la formation. Ensuite, on a séparé aussi des problématiques spécifiques au réseau, qu'on ne pouvait pas aborder de cette manière croisée. Donc, tu peux envoyer le tableau. Donc, encore une fois, on va pas lire le tableau. Simplement, c'est pour vous montrer un peu comment on a procédé. Donc, on est parti d'un contexte. Si on prend, par exemple, les équipes artistiques, on peut dire, en termes de contexte, une stagnation générale des moyens de financement de l'État et des collectivités, des menaces à répétition sur les annexes 8 et 10 de l'intermittence, des difficultés de structuration et de professionnalisation des équipes artistiques. Il en résulte un manque de reconnaissance professionnelle structurelle, une précarité générale des acteurs. Voilà, c'est ce qu'on analysait en contexte. Tout le monde était d'accord sur la question du pacte institutionnel. Et ensuite, pour réinterroger le modèle économique, eh bien, les compagnies nous ont dit, les compagnies et les groupes, on a besoin en tout cas de réinterroger le modèle économique d'une compagnie. Ça veut dire quel ratio de temps, quel équilibre entre les cinq activités, création, production, diffusion, sensibilisation, comment prendre en compte le temps de conception, etc. etc. Voilà. Et donc ce travail-là a été mené, est encore en passe d'être mené sur l'ensemble des acteurs. Et donc on a mis un peu à part, tu peux envoyer, oui, voilà, ce tableau, des problématiques spécifiques au réseau, parce que les réseaux fonctionnent de manière un peu différente. Et donc, on avait besoin d'identifier un certain nombre de freins, par exemple, comme les problèmes, le problème du bénévolat, du manque de moyens humains et financiers pour animer et faire vivre le réseau, l'hétérogénéité des acteurs, la question de leur identité, voilà, un certain nombre de choses. Les leviers, parce qu'ils ont des leviers vraiment spécifiques qui peuvent nous aider à faire bouger un certain nombre de choses au final, notamment celle de construire collectivement une conscience en tant qu'acteur culturel et à s'inscrire dans l'échiquier politique des jeux d'acteurs, voilà, pour amener, élaborer de la décision publique. Ensuite, il y a des problématiques qui sont spécifiques aux lieux ressources et des problématiques spécifiques aux lieux d'accompagnement, voilà, notamment les bureaux de production qui rencontrent beaucoup de problèmes et qui permettent aussi de faire avancer beaucoup de choses. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Michel Adam concernant ce qui est encore un tableau mais qui ne le sera vraisemblablement plus. Mais voilà, je passe la parole sur la construction.
Alors, comme on était dans la cartographie des acteurs et qu'il nous avait fallu au moins deux repères dans qu'est-ce qu'ils font et comment ils sont nommés, la nomenclature, pour les saisir, ensuite on s'est rendu compte que dès qu'il y a acteurs, il y a forcément valeur. Et que peut-être un de nos problèmes aujourd'hui, c'est que ces valeurs sont ou oubliées, ou ignorées, ou méprisées par un certain nombre d'autres acteurs. Et donc, il était fondamental pour se projeter de refaire surgir la question des valeurs et de ce qu'elles peuvent engendrer en termes d'action. Donc, des principes d'action qui vont nous aider à faire avancer nos valeurs. Mais au préalable, j'ai eu besoin, et je crois sans doute utile, qu'on se remette tous un petit peu en arrière sur dire « mais culture, culture, vous avez dit culture, de quoi parle-t-on » Peut-on montrer la diapo suivante? Si vous prenez le dictionnaire, vous verrez que l'origine du mot « culture » vient du latin « colere », qui a un double sens. Je vous invite à ne jamais perdre les deux dimensions de ce sens. « Colere » veut dire « cultiver » au sens agricole, évidemment, et au sens « célébrer », Déméter, la déesse des moissons. Et donc cette culture, c'est-à-dire cet acte des humains, autrefois, pour s'approprier en la traitant, en la travaillant la richesse de la nature, est en même temps investie d'un sens plus que religieux, mythologique, mythos, à savoir ce mystère de la fécondité de la vie qui se développe. À partir de là, il y a au moins 5 sens du mot culture. Si je discute avec un paysan de la vallée de l'Antenne, je parle de culture, il va me parler de la culture du maïs. Moi, je vais lui dire, j'aimerais mieux que ce soit du chanvre. Et j'espère que ça va arriver. On est sur le premier sens. C'est le sens biologique, celui de la vie. Deuxième sens, qui est né très rapidement de celui-là, c'est que l'ensemble des connaissances, des savoirs et des savoir-faire de l'humanité en train d'arriver à survivre et même à se développer sont devenus évidemment un fait de culture. On est dans des rapports individuels au savoir, à la connaissance. Ce serait le champ de l'histoire, de la géographie, l'épistémologie. Et puis troisième sens, mais sans doute en même temps, si on prend les mains qui sont sur les grottes, hein, l'art pariétal, c'est les rapports à la création. Qu'elle soit artistique, en principe non fonctionnelle, ou technique, inventer les outils et les développer. Et là, les rapports à la création, c'est le sens classique du mot ministère de la culture. Mais c'est aussi les centres de culture, comme cette maison d'ailleurs dans laquelle nous sommes. Hein, on voit bien qu'il y a les deux sens du mot culture. Autrement dit, la création joue un rôle. Ensuite, vous avez le quatrième sens, qui est le sens ethnologique. La culture des Japonais, c'est une culture du risque. La culture des Basques, c'est une culture, notamment, bien sûr, il y a toujours plein d'éléments, une culture du chant, ou de la voix. Etc., etc. Et puis enfin, il y a le dernier sens, mais qui est même questionné aujourd'hui par les travaux de l'éthologie sur la vie animale, j'en parlerai pas, qui est qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que ça veut dire être des humains? On a en nous une animalité, qu'est-ce qui dépasse l'animalité pour être les humains? Donc, le fait culturel. Je rappelle quand même, au niveau des ONG, je l'ai découvert finalement un peu grâce à vous, à un autre labo où je travaille, c'est la question des droits culturels de l'humanité et de chacune des personnes qui la composent. Ça me semble fondamental, il y a des textes très beaux à Barcelone sur les droits culturels, ça évidemment, ça m'amène à une espèce de définition, une double définition de la culture. On pourrait dire dans un premier sens, plus proche d'aujourd'hui de notre préoccupation, c'est que la culture c'est finalement tout ce qui se crée, s'apprend et se transmet. Et ces trois actes, ces trois pôles étant inséparables dans la réalité et tout le temps en interaction. Il faut de la création, il faut de l'apprentissage, il faut de la transmission. Même si ce n'est pas forcément les mots qu'on emploie. Mais il y a une deuxième définition que j'aime beaucoup, qui renvoie justement à l'UNESCO, les droits culturels, Barcelone. Tout ce qui, pour une personne ou pour un groupe, on pourrait appeler culture, tout ce qui exprime notre humanité et qui la fait grandir. Mais attention, ce n'est pas qu'une définition forcément favorable, parce que ça peut être aussi des valeurs régressives. Il y a eu des cultures dans lesquelles la femme, et il y en a encore, et particulièrement, hein, en position plutôt basse, etc. Mais on est là sur tout ce qui exprime aussi bien les modes de vie, les modes de, d'habillement, de manger, d'expression, de culture, de création, d'invention, qui exprime notre humanité et la fait grandir. Alors, à partir de là, venons-en à la diapo suivante, les valeurs. C'est pas du tout exhaustif, mais on a recensé dans les deux dernières séances, si je me souviens bien, les valeurs fondamentales. La première valeur fondamentale dans notre champ aujourd'hui, c'est évidemment la création, sans laquelle on ne serait pas là. Donc, une valeur fondatrice. Mais je vais passer aussitôt, finalement, au principe d'action. Ça permettra de les relier, parce que des valeurs sans principe d'action, ça reste du rêve, qui est fondamental, mais ça ne devient pas réalité. Donc, l'idée, là, c'est que la création est fragile, c'est qu'elle doit être accompagnée. Si elle n'est pas accompagnée, soutenue, étayée, ben elle disparaît. Et c'est une perte pour tout le monde. Léonard de Vinci, sans le mécénat qui était derrière, on n'aurait peut-être pas Léonard de Vinci. C'était donc évidemment toute la question de ce que vous appelez la médiation, qui est absolument fondamentale, hein, la diffusion de la culture. Mais médiation, c'est un terme riche. Deuxième valeur essentielle, et ce n'est pas une hiérarchie, hein, c'est dans l'ordre dans lequel on les a produites, c'est la liberté. Les libertés, j'aurais envie de dire, sous les multiples aspects. Et donc là, les principes d'action, si on veut que les libertés ne soient pas un mot vain, c'est, on le voit bien en ce moment au nord de l'Afrique, c'est les conditions concrètes de construction et d'expression de ces libertés, qui sont en général d'ailleurs conflictuelles. Mais ça s'appelle la démocratie. Et donc c'est les méthodes, voilà, c'est ça, on va en rester là, définition des conditions concrètes. Troisième valeur que nous avons mis à jour, l'éducation. L'individu, et je me suis permis d'ajouter, parce que je l'ai beaucoup vécu dans mon histoire, l'éducabilité de la personne. Je pense que, comme toute valeur, il y a un pari, hein, on énonce quelque chose qui n'est pas démontrable, mais auquel on tient, donc il y a l'idée que la personne humaine est éducable, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer. Et le principe d'action qui va tout de suite derrière, c'est le devenir de chaque personne, moi, vous, est absolument imprédictible. Et il faut respecter ce devenir. Je ne sais pas de quoi je suis capable, je ne sais pas de quoi vous êtes capable. Les héros sont jamais des gens qui arrivent avec des casquettes de héros. Hein, on le voit en ce moment dans un certain nombre. Donc ça, c'est fondamental en termes de principe d'action. Je l'ai vécu beaucoup dans la création d'entreprises ou dans d'autres secteurs, l'insertion par l'économie. Le respect du devenir imprédictible de chacun. Alors ensuite, une autre valeur que vous avez mis en avant, et là, moi, je suis aussi complètement d'accord, le consentement mutuel, le consensus. Mais attention, ça n'existe que si, comme principe d'action, on a des méthodes de construction des consensus, de négociation, de compromis, de, hein, etc. Et enfin, une valeur fondamentale, surtout dans notre pays où on a tendance à penser qu'il n'y a qu'une valeur qui vient d'en haut, hein, ça s'appelle Louis XIV, aujourd'hui ça s'appellerait un peu le préfet, etc., c'est la légitimité plurielle. Tous les acteurs sont légitimes. Mais pour que cette valeur devienne évidemment un principe d'action, eh bien, il faut qu'on construise ce que vous tentez de faire, j'imagine, ensemble, les projets. C'était la charte d'évaluation construite avec l'État et Jospin et le mouvement associatif en 2001. Voilà.
Merci Michel. Donc, en ce qui concerne les pistes, on n'y a pas consacré beaucoup de temps, mais on peut vous en donner quelques-unes, qui étaient intégrer le temps de conception et d'expérimentation dans l'économie de production d'une œuvre. On retrouve les questions qu'on avait tout à l'heure. Inventer de nouveaux espaces de liberté et de coopération entre équipes artistiques, institutions, réseaux. Ouvrir le champ à de nouvelles pratiques artistiques. On parlait déjà même des musiques actuelles, ouvrir le champ, puisqu'elles sont en pleine restructuration dans le champ global de la culture. Et évidemment, les arts numériques qui ont besoin de trouver leur place. Consolider les réseaux et les structures d'accompagnement, leur donner des moyens d'exister, aider à la production des petites structures de diffusion pour un maillage élargi, travailler à la dimension interrégionale, européenne et internationale. Pour ça, travailler sur des indicateurs sociaux pour mesurer les effets des politiques culturelles à long terme. On avait évoqué des idées d'études, d'images actualisées des différentes structures sur leur territoire. Repérage et analyse de partenariats innovants sur le territoire entre une structure et une compagnie ou un groupe, c'est-à-dire un travail de veille, d'analyse, de réflexion et de capitalisation. Voilà, et dans le résultat final, on ajoutera donc quelques annexes. Donc le glossaire dont je vous ai parlé, pour reprendre les termes les plus utilisés en matière de création-diffusion. J'ai d'ailleurs lu hier que le Syndéac est en train de travailler à la même chose. Donc voilà, on pourra croiser nos glossaires, ou en tout cas essayer de travailler ensemble. Et on y ajoutera une contribution, enfin un certain nombre de contributions de l'Observatoire, qui pourra agréger un certain nombre de données dont il dispose déjà, et puis nous ont proposé de préparer un certain nombre d'études de cas, notamment par exemple sur le parcours d'une œuvre à partir de cas concrets dans le domaine des musiques, du théâtre, de la danse, par exemple à passer au tamis des 5 fonctions désignées, peut-être un travail sur les dynamiques de partenariat, et puis sur l'économie, la ressource de chacun des types d'acteurs. Voilà.
Merci Catherine, merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions que vous souhaiteriez avoir ?
C'est simplement la question du statut des intermittents du spectacle. Donc ça existe encore dans notre pays. Jusqu'en 2013, en tout cas, visiblement, ça se maintient. Mais j'ai cru entendre que la question du temps du chantier de la création pour les équipes artistiques ne serait plus considérée comme des heures de cachet artistique pour donc, les artistes, et que donc là, on revenait à un régime général. C'est donc bien. Ça pose un très très gros problème.
Mais c'est bien là toute la question de l'enjeu, de bien séparer ce que veut dire création, ce que veut dire production, et de bien négocier absolument ces temps de création qui sont absolument indispensables pour la vie de n'importe quel artiste, et que ça fasse partie de l'économie de la culture. C'est un vrai problème.
C'est plus qu'un problème, c'est une folie. C'est une folie. C'est comme si on imaginait, changeant d'univers, un autre univers dans lequel j'étais un peu autrefois, c'est l'univers industriel et technologique. Imaginez qu'on supprime du jour au lendemain et on ne finance plus la recherche. Nulle part. On enlève tous les chercheurs, publics et privés. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est absolument impensable. Là, ça me rappelle ce PowerPoint que vous avez peut-être vu passer, qui est extraordinaire. C'est la fameuse symphonie de Schubert où on se dit il y a des temps improductifs, un peu, il faudrait peut-être enlever ça, il y a trop de clarinettes, on enlève. Voilà, c'est une folie, c'est du délire psychologique. Guidé par une idéologie ultralibérale complètement folle qui mène à des catastrophes, hein, c'est évident, et qui ne respecte pas la réalité du monde vivant.
D'autres questions, remarques ? Bien.
Une chose qu'on n'a pas abordée dans le... Même parce que j'y pense, hein, parce que je suis confrontée à ça. On n'a pas abordé la question d'un financement possible de reprise, d'aide à l'écriture, de reprise sur des créations qui n'ont pas eu le temps d'émerger ou qui ont eu une diffusion qui a été infime, donc du coup qui n'a pas pu être vue, et la possibilité effectivement de ne pas abandonner une œuvre qui n'a pas eu encore le temps de vivre, et donc comment effectivement ne pas continuer à produire et de se heurter à chaque fois au problème de la diffusion. Donc la question effectivement d'un financement possible des tutelles sur l'aide à l'écriture.
Comme quoi les tableaux ne sont pas terminés.
C'est important parce que sinon, ce qui vous guette et qui est peut-être déjà à l'œuvre, hein, je connais mal votre secteur, c'est ce qui se passe notamment dans l'agriculture et la grande distribution. C'est que peu à peu, c'est la production. Alors là, c'est un autre sens. Là, c'est la distribution. Mais finalement, ça joue ce rôle à partir des pommes faites par l'agriculteur, de faire qu'elles arrivent jusqu'à mon hypermarché. Eh bien, c'est la production qui se met à tout. La distribution, en l'occurrence là-bas, à tout contrôler. Et donc, la création en tant que telle devient de plus en plus asservie à cette chose-là. Ce qui est encore très dangereux, quoi.
Bien. Merci à nos premiers porte-parole. Nous allons accueillir Émilie Bourbon pour le groupe suivant et André Curmi. bien Émilie Bourbon, qui est donc le porte-parole du groupe qui a travaillé sur les questions de population pratique et publique.
Bonjour à tous. Alors, le groupe de travail Population Pratique Publique s'est réuni 4 fois entre juin 2010 et février 2011. Chaque réunion compte en moyenne 16 participants et un grand témoin, respectivement Anne-Marie Chénion, Christophe Villemain, Jean-Michel Pérez et Yves Menu, qui est aujourd'hui présent d'ailleurs. Tout d'abord, il est important de préciser que cette thématique et l'approche des problématiques qu'elle sous-tend sont complexes et que peu d'études existent encore sur ces questions. Les perspectives d'approche seront donc peut-être légèrement différentes des autres groupes de travail. Commençons par la première séance qui nous a permis de dégager 4 axes principaux en lien avec les populations, les pratiques et les publics. Ces axes ont porté sur la question des médiations, sur la question des publics, la question des territoires et la question de l'éducation artistique qui sera traitée conjointement avec le groupe enseignement artistique et professionnalisation, comme indiqué tout à l'heure. En lien avec ces axes définis, il nous a semblé important de préciser la différence entre démocratisation culturelle, c'est-à-dire faire venir le plus grand nombre aux plus grandes œuvres, et démocratie culturelle, autrement dit le droit culturel de chacun, dont parlait Michel Adam tout à l'heure, qui passe aussi par la pratique. Cette séance nous a également amené à dégager 3 problématiques. La première a concerné l'orientation du groupe de travail. La question s'est posée de savoir s'il s'agissait d'une contribution à un débat national nourri par l'expérience régionale, ou bien s'il s'agissait d'un débat de propositions, de solutions et d'éclaircissements en vue d'une meilleure organisation uniquement régionale. La seconde problématique qui a été dégagée et qui doit être considérée toujours à travers la thématique population pratique publique est liée à l'importance du contexte économique, surtout compte tenu du sentiment de paupérisation très fort que connaît la culture aujourd'hui. Et enfin, la nécessité d'une clarification sémantique afin d'éviter toute ambiguïté d'analyse du terme de médiation, du terme de territoire et de la question des publics. La deuxième séance a porté sur le thème de la médiation. Dans la logique des axes de travail dégagés, un double constat a été fait. Le premier constat, les propositions artistiques restent réservées à une part restreinte de la population, de l'ensemble des citoyens. Deuxième constat, l'opposition est toujours existante entre l'éducation artistique telle qu'elle peut être enseignée dans les écoles et le monde culturel au sens large. Ce double constat a permis de soulever les enjeux suivants, être en mesure de fabriquer du lien sur un territoire, décloisonner les genres, par exemple en favorisant les rencontres entre la musique, la danse, le théâtre, la musique contemporaine, décloisonner les publics en encourageant la mixité sociale et décloisonner les structures en développant la structuration de réseaux entre les écoles de musique, les centres socioculturels ou encore les différents équipements culturels. Et enfin, deuxième enjeu, confier également à l'artiste la fonction de médiateur et ne pas occulter l'importance du projet pédagogique dans sa continuité et sa dimension partenariale. Pour répondre à la nécessité d'une clarification sémantique du terme de médiation, différentes représentations de la médiation ont également été données. Premièrement, la médiation en tant qu'elle permet d'assurer le lien entre création et développement artistique. Seconde représentation, la médiation en tant qu'elle est assurée par les politiques culturelles et qui prend la forme de propositions faites aux individus par le corps social, avec la question du choix de société qui est ici visée. Sans oublier la démarche individuelle elle-même qui a une part active dans le travail d'organisation de cette médiation. Troisième représentation, la médiation comme liberté de pouvoir accéder aux différentes propositions artistiques, c'est-à-dire comme la création des conditions de possibilité de la rencontre entre artistes et public. Cette séance dédiée à la médiation a permis d'ouvrir sur les interrogations suivantes. La médiation est-elle une des branches de l'éducation artistique en tant qu'éducation populaire, appropriation par tous du geste artistique, ou bien au contraire, la médiation dépasse-t-elle le cadre de l'éducation en s'inscrivant comme fait social, dans la mesure où elle serait le point de rencontre entre les artistes et les publics, et ce, au travers de projets vécus ensemble. Des propositions ont ainsi pu émerger. La création d'une formation d'artistes médiateurs au niveau master à l'université, réfléchir à la question des publics et des non-publics à travers une étude approfondie, quelle médiation pour quel public, quelle proposition culturelle pour les non-publics, c'est-à-dire les citoyens au sens large. Enfin, étudier davantage l'enjeu de la connexion entre le monde culturel et l'ensemble des citoyens. Nous avons abordé lors de la troisième séance la question des territoires, toujours en lien avec la médiation. Il a été fait état d'un dispositif culturel français qui focalise ses énergies et ses efforts sur des territoires particulièrement de centre-ville historique, ne touchant donc principalement que des populations qui, massivement et sociologiquement, ont un parcours culturel déjà bien étoffé, laissant de ce fait souvent en marge les autres types de territoires, comme les territoires ruraux ou périphériques. Face à ce constat, la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'effort d'aller vers les populations, est essentiel. Malgré les difficultés qu'elles rencontrent, et qui peuvent être de différents ordres, des difficultés de précarité économique, de mobilité, ou encore celles évoquées précédemment, des difficultés institutionnelles et symboliques. Au niveau du travail effectué pour aller vers davantage de démocratisation culturelle, Jean-Michel Pérez, directeur de l'Astrolabe à Mireuil, nous a présenté différentes postures professionnelles ou bonnes pratiques adoptées par son équipe, comme par exemple travailler avec l'ensemble d'une population dans toute sa diversité, ce qui suppose donc de comprendre la nature du territoire sur lequel l'équipe travaille, les populations concernées, leur rapport à la culture, leur modalité de perception de la dimension artistique, leurs pratiques, ce qu'elles expérimentent, et inscrire le projet culturel dans la réalité du développement territorial. Nous avons enfin distingué le territoire entendu au sens géographique du territoire entendu au sens symbolique. Un territoire peut parfois lui-même être couvert par plusieurs territoires au niveau géographique. Il peut également être considéré au sens symbolique comme un espace à sauvegarder ou encore comme un espace possédant son identité propre mais ouvert sur le monde. Avec toujours cette question sous-jacente, comment éviter le cloisonnement des territoires sur eux-mêmes ? Pour répondre à cette question, deux axes de travail possibles ont été évoqués. Développer l'impact des événements afin que des populations se situant hors du territoire donné puissent venir à la rencontre de populations de quartier, par exemple. Et deuxième axe de travail, renforcer l'attention portée au montage partenarial. Enfin, la quatrième et dernière séance a porté sur la question des publics, question complexe. La présentation de l'étude sur les publics menée par l'ORACLIM, l'Observatoire régional des arts et de la culture en Limousin, représenté donc par Yves Menu, a permis au groupe de travailler sur le rapport public et territoire, sur la question de la motivation du public, du contexte ou du facteur déclencheur, comme le coût de la pratique, les déplacements, l'intérêt porté aux propositions culturelles qui sont faites, sur la question de la transversalité des publics, qui passe par le lien entre les publics de la diffusion du spectacle, du patrimoine, de l'enseignement artistique, sur la question de l'intimidation sociale. Cette étude nous a aussi permis de réfléchir au rapport au numérique, qui n'empêche pas toujours la pratique, comme l'atteste par exemple la fréquentation des salles de concert par les publics adolescents, qui téléchargent pourtant beaucoup de musique sur Internet, sur la remise en cause du financement public de la culture dans les salles conventionnées ou labellisées, dans le cas où le public ne serait pas suffisamment diversifié, sur l'intérêt de compléter les études macroéconomiques par des études de territoire, enfin, plus globalement, sur les questionnements liés à l'élargissement des publics, qui peuvent entraîner aussi un élargissement de l'offre et donc nécessiter davantage de moyens financiers et humains. Ajoutons sur cette notion d'élargissement des publics que dès lors des questions d'ordre économique, social et politique se posent. Par ailleurs, qu'entendons-nous exactement par élargissement au sens, élargissement donc du nombre ou de la diversité, c'est-à-dire un élargissement quantitatif ou qualitatif. À partir de là, deux exceptions ont été posées. Élargissement au sens plusieurs publics, celui des salles et tous les autres. et élargissement au sens faire venir plus de personnes dans les salles de spectacle. Ces deux dimensions doivent être prises en compte dans la poursuite de nos réflexions. Donc pour conclure, à travers ces quatre réunions, nous avons tenté d'atteindre les objectifs fixés initialement par le groupe de travail sur la question de la médiation et de ses représentations associées, sur la volonté d'élargir les publics et de mieux comprendre toutes les conditions de cet élargissement, de concevoir les modalités de cette perception des publics comme étant un facteur possible de cet élargissement, et sur la nécessité d'aller vers une démocratisation culturelle des territoires afin d'éviter leur cloisonnement. À travers ces différentes clarifications conceptuelles, nous avons tenté de voir quels pouvaient être les outils pratiques à construire à partir d'une meilleure connaissance partagée, comme par exemple des études de territoire ou des études sur les non-publics, des postures professionnelles à adopter, une formation des enseignants ou des médiateurs, des dispositifs d'accompagnement des politiques culturelles. Voilà, comme l'indiquait Philippe, vous retrouverez les comptes rendus de ces groupes de travail sur le site de l'agence.
Merci Émilie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des précisions que vous souhaiteriez avoir ?
Merci. Merci. Non, c'est pas payé. Ouais. Non, là moi, je suis ça m'a un petit peu soulevé, c'est confier à l'artiste la formation de médiateur, la fonction de médiateur. Ça ne veut pas dire que je pense que est artiste un fou, d'accord, mais je pense que on le fait. Je pense que c'est la rencontre avec l'œuvre qui est bouleversante. Je pense que on n'est pas là pour consoler, mais pour bouleverser. Qu'il y a quelque chose qui est tout de même de l'ordre de l'inexprimable sur une pensée rationnelle qui s'exprime donc à travers l'œuvre artistique qui est présentée aux gens, qu'on peut effectivement avoir chacun de façon très secrète, très solitaire, envie d'aller à la rencontre des publics, et certains le font très bien, et d'autres artistes le font moins bien parce qu'ils sont dans une maladresse, une timidité, enfin j'en sais rien, mais confier à l'artiste cette fonction-là, ça me questionne, voilà, parce que c'est presque trop général. Et l'autre chose qui m'a questionnée, c'est envisager un master artiste-médiateur. Alors là, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, à force d'éplucher, on se vide. C'est-à-dire un type comme Yann Fabre, par exemple, si on décidait que sur le territoire Poitou-Charentes, où Campina était encore en vie, mais en tout cas la compagnie existe, d'amener et de faire en sorte qu'à un moment donné, on crée un plateau nomade et que ces grands artistes qui font des œuvres monumentales acceptent de venir présenter leur travail en dehors des grosses scènes nationales, mais s'installent à un moment donné, tout d'un coup, dans un champ en milieu rural. La rencontre, je pense, serait bouleversante. Et à mon avis, les mots ne seraient pas nécessaires. Enfin voilà, c'est effectivement aller à la rencontre des publics partout, oui. Donc attention aux bâtiments en dur qui mettent les artistes pendant des années dans des lieux clos. Rendons transparents ces maisons-là, circulons, mais ne nous obligeons pas systématiquement à mettre dans la balance sur la recherche et sur notre travail d'artiste trop, effectivement, de médiation.
Voilà, alors on avait quand même précisé, confier à l'artiste le rôle de médiateur pour peu qu'il en ait l'envie et les capacités pédagogiques aussi. Enfin, voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut être spécifié. Oui, puis il faut
préciser juste que cette question est venue aussi dans un contexte particulier qui était après l'intervention du directeur du CFMI et qui forme justement des artistes, quelque part, qui sont dans une médiation aussi. Et c'était plutôt... l'envie de se dire, voilà une expérience exemplaire, celle de l'artiste intervenant en milieu scolaire, et puis plus largement sur un territoire, qui pourrait s'étendre à d'autres genres artistiques, et peut-être plus largement d'où cette proposition d'aller vers une formation un peu spécifique. Mais évidemment, elle ne vise pas à occuper toute la place de la médiation, c'est simplement donner peut-être des outils à un moment donné, voilà. D'un autre rapport au public, quoi.
Mais ça formation du secteur de l'éducation nationale pour comprendre des choses de cet échange-là.
Il y en a déjà eu avec les danses à
l'école. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Ouais,
20 années de danse à l'école.
Oui, c'est lié, c'est pas là-dessus que je voulais intervenir, mais par rapport à ce que dit Odile, il y a deux conceptions, hein, et on va pas les trancher là ce matin. Il y a effectivement une conception, ici de Malraux, du choc avec l'œuvre d'art, que l'œuvre en tant que telle suffit à sa transmission, au bouleversement, etc. Et puis il y a une autre conception, et elle ne s'oppose pas systématiquement d'ailleurs, qui consiste à dire que c'est pas si évident que ça que le passage de l'œuvre, notamment les œuvres contemporaines dans toute leur diversité, au public, au pluriel, au public le plus large et à celui qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas été, à un moment ou à un autre, préparé à cette rencontre. On peut en débattre très longtemps, mais c'est vrai que la notion de médiation dans ce sens-là reste quand même quelque chose de très important aujourd'hui. De même, et ça, Émilie y a répondu, qu'il y a des artistes qui souhaitent, et qui font ça très bien, être eux-mêmes les agents de la médiation entre leur production artistique et et leur public, d'autres qui ne souhaitent pas, mais qui pour le coup, peuvent être accompagnés aussi d'un certain nombre de médiateurs, qui eux-mêmes peuvent être des artistes aussi, par ailleurs, etc. Donc l'idée d'une formation à la médiation, enfin, de la nécessité de la médiation, ça, je crois que ça a été très bien présenté dans ce rapport, je trouve, et je pense qu'il faut vraiment continuer à creuser ça, et le fait que des artistes, mais dans toute leur diversité, pas automatiquement, des artistes dans toute leur diversité, peuvent à un moment ou un autre se former, s'expérimenter, pourquoi pas se qualifier à une compétence en matière de médiation, c'est pas plus mal, ne serait-ce qu'en voyant le dégât parfois que font certains artistes quand ils veulent médiatiser eux-mêmes et même leurs œuvres. Alors, dernier point, c'était le temps de là-dessus que je voulais intervenir. On voit bien effectivement que les conclusions de ce groupe, enfin les conclusions, le rapport d'étape actuellement, ça rejoint d'une certaine manière, complète d'ailleurs, et vont sur d'autres terrains aussi par rapport au groupe sur l'enseignement artistique, et on sent bien qu'il y a vraiment un travail réellement de rapprochement de ces deux groupes qui est nécessaire et qui est d'ailleurs programmé. Notamment, moi je retiens sur votre approche, que je partage complètement, en termes de territoire, à la fois géographique et symbolique. Et je crois que Émilie l'a pas dit comme ça, mais elle l'a évoqué. Si on travaille sur les territoires, c'est surtout travailler sur la frontière. L'intérêt d'un territoire, c'est savoir comment on franchit sa frontière pour aller dans l'autre territoire. Quoi.
Une dernière question ?
Non, c'est pas une question, c'est juste une réflexion. En tant que maquignon auprès des artistes, c'est bien connu, on est des diffuseurs, donc on est là pour les exploiter et on aime bien leur faire faire un maximum de choses. Mais ce que j'entends là, moi, me fait très très peur. Je pense que un artiste est avant tout un créateur, point à la ligne. Tout le reste, c'est d'un autre domaine. Que certains puissent faire de la médiation, d'autres pas, que certains soient pédagogues, d'autres pas, etc., etc. Évidemment. Mais avant tout, et je rejoins complètement la réflexion d'Odile, l'artiste, c'est un créateur et ne sortons pas de ça. Si on va vers autre chose, on va vers du socio-cure, on va vers du social, on va vers tout un tas de choses, on cherche à nous faire faire ça de plus en plus. Nous, en tous les cas, en tant que diffuseurs... Hein ?
C'est pas sûr, ça m'interpelle parce que...
Attends, je voudrais aller jusqu'au bout. Ah, moi, pour moi, c'est pas un technicien, surtout pas. Oui. en tous les cas, voilà, pour moi, l'artiste est un créateur, il est un endroit de la société pour des raisons diverses et variées qui est très important, et en tout état de cause, nous on est là pour faire, avant tout en tant que diffuseur, pour faire rencontrer des œuvres créées par des artistes avec un public, mais faut pas tout confondre.
Enfin, juste, il faudrait rajouter la notion du temps, qui est quand même fondamental. Le temps de l'artiste n'est pas le même que le temps du spectateur, etc. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là ce matin, mais évidemment, c'est des complexités importantes dont les professionnels de la profession, comme on dit, brasse tout ça pour essayer d'en tirer le profit le meilleur à destination de la rencontre des publics et des créateurs.
C'est juste parce que là, on est sur le croisement entre tous nos groupes. Hein, ça réinterroge ce que j'appelais, moi, le modèle économique d'une compagnie, à un moment donné. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses qui sont à la fois des injonctions, mais quelquefois des choses qui sont totalement légitimes. On demande beaucoup de choses à l'artiste. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire et qui peuvent apporter beaucoup de choses. Donc, quel est le ratio en temps? Quelles sont les possibilités réelles, les volontés réelles, le temps qu'on y consacre et qu'est-ce qu'on demande exactement à un artiste? Voilà. Et c'est vraiment un des points d'articulation qui est demandé par chacun. Enfin, on voit bien.
Voilà, mais on avait bien précisé artiste médiateur pour peu qu'il en ait l'envie et les compétences. Donc, oui, mais certains artistes font ce choix aussi de faire de la médiation. Voilà, c'est aussi un choix.
Pardon, bonjour, Catherine Meyer, conservatoire de Poitiers. Pardon ? Non, ce qui nous fait peut-être soulever, comme dit, pour reprendre le terme d'Odile, c'est le côté LMD, le côté licence master, etc., le côté master. Mais je me dis, il y a encore des choses à inventer. Moi, je me considère comme une artiste qui enseigne. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à inventer. Maintenant, à nous d'être vigilants. Mais je pense qu'on a aussi une forme de... On a ce côté mystère... On peut apporter des choses qui ne sont pas mesurables, quantifiables, qui sont de l'ordre de la création, etc. Mais on a aussi en nous une part de technique, de technicien. On sait de quoi on parle, on sait comment s'adresser à un public, comment apporter une œuvre. Certains savent, en tout cas. D'autres artistes sont moins entre guillemets, portés sur la médiation. Mais je pense qu'on peut encore se laisser des portes à entrouvertes pour inventer de nouvelles formes de métier, pour aller justement porter cette parole créative. Pour moi, c'est pas antinomique, en tout cas. Voilà. Peut-être maintenant, il faut faire attention.
Non, mais je dis pas que c'est antinomique. En plus, je le vis. Mais je le vis et c'est parce que je le ressens. C'est-à-dire, sur le projet que je suis en train de fabriquer sur le milieu rural, il y a des dangers. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs dans cette équipe qui tourne autour d'un projet professionnel, en danse et en musique, et il faut que je sois très 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 vigilante pour pas tomber justement dans une espèce de peau pourrie d'un truc qui sera bien consensuel et qui racontera plus rien. Donc moi je mets juste attention, voilà. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est sur le systématisme des projets de création pluridisciplinaires. Dieu sait si je suis contre les ghettos, ça c'est clair. Mais il faut aussi faire attention à préserver aussi la spécificité du chorégraphe, de l'homme de théâtre, du plasticien, de l'artiste de rue, du circassien. Enfin, je crois que on a tous envie effectivement de pas mourir idiot. Donc ne restons pas entre danseurs, ne restons pas entre gens de théâtre et tout le tintouin. Mais c'est pas spécialement parce qu'on va mélanger tous ces arts qu'on va mélanger les publics. Voilà.
Bien. Je propose peut-être, après avoir écouté la quatrième intervention, de reprendre certains angles, certaines questions, hein, tout à l'heure. Et pour terminer donc la présentation des groupes, je laisse donc la parole à André Curmi pour le groupe qui a abordé la thématique des politiques et financements publics.
Alors, pour paraphraser Monsieur Magritte, je dirais ceci n'est pas un rapport d'étape. C'est la mise en partage avec les trois autres groupes qui vous ont présenté, soit des rapports d'étape, soit des préfigurations de préconisations, soit des synthèses, la dernière ayant été la plus concise d'ailleurs, et qui visiblement ouvre au plus de débats. Je vais essayer juste de rappeler ce qu'il en est de l'approche des politiques et des financements publics, s'appuyant sur le dispositif d'observation pérenne qui existe à l'Agence régionale du spectacle vivant. C'est important de le dire, hein, c'est pas un groupe de travail conjoncturel, simplement lié à la conférence régionale du spectacle vivant. C'est un dispositif qui existe depuis maintenant 6 ou 7 ans, et qui mène des chantiers réguliers, hein, et qui lui ont permis d'élaborer un peu de méthode, d'agréger beaucoup de connaissances et d'en produire un tout petit peu de temps en temps, et d'en produire surtout quand il y a une nécessité qui est celle de l'ordre du dialogue social ou de la discussion, de la négociation entre les acteurs. Si vous vous souvenez bien, lors de la conférence régionale de novembre 2009, qui a donné donc lancement de, et mise en œuvre de ces processus de travail en groupe, l'Observatoire, qui est constitué donc de Maud Régnier et de moi-même, et qui, conjoncturellement, est renforcé par deux économistes pour une durée d'environ 18 mois sur l'ensemble de leur présence, Thomas Vrier, qui est présent dans la salle, et Antoine, qui mène aussi un travail sur le système d'information de l'agence, qui n'est donc pas présent dans la salle. Donc l'Observatoire avait pu, à l'issue des échanges qui avaient été menés par les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient artistes, qu'ils soient médiateurs, présenter une esquisse de paysage du spectacle vivant en Poitou-Charentes. Et je crois qu'effectivement, l'objectif premier de ce groupe de travail qui finalement accompagne avec exigence et bienveillance l'Observatoire, c'est de rentrer dans une compréhension encore plus fine de l'organisation de ces politiques publiques dont on a vu ce jour-là qu'elles concernaient, suivant les niveaux, une dizaine d'acteurs, on va dire le premier cercle, jusqu'à plus de 600 acteurs si on élargit les cercles de façon concentrique, si on passe d'interventions qui sont négociées et contractualisées avec plusieurs types de gouvernements, hein, j'appelle gouvernement ici aussi bien l'État que la région, que le département, que la communauté d'agglomération, que la ville, que le pays, etc. Qu'elles sont basées sur des contrats d'objectifs ou qu'il s'agisse d'une action ponctuelle et qui se mène avec le soutien d'un seul niveau de gouvernement, qui peut être un gouvernement de proximité, une petite commune ou une petite communauté de communes. Donc ce panorama présenté et esquissé ce jour-là, évidemment, nécessite d'être mieux connu à deux fins, évidemment, celle sans doute d'une meilleure articulation et aussi celle d'une évaluation des actions publiques qui sont conduites par les acteurs à travers ces financements et ces dispositifs. Donc, fort heureusement, soit parce qu'on l'a construite, soit parce qu'on en a eu la mise en partage, on a des méthodes de connaissance à notre disposition. L'Observatoire avait déjà fait, grâce au concours des techniciens des différentes administrations de la région et de l'État, une première mise en perspective des financements de ces deux niveaux-là concernant le spectacle vivant de notre région. Mise en perspective et éléments d'interprétation, notamment pointant des homogénéités et des différences. Depuis, cette méthode s'est enrichie très largement de la collaboration et de la coopération que nous avons avec d'autres structures d'observation et d'études, et notamment au-delà de notre région, avec un groupe de travail au sein de la plateforme interrégionale de développement culturel. Et je salue d'ailleurs ici la présence d'Yves Menu de l'Observatoire régional des arts et de la culture en Limousin, qui est un voisin, mais qui est aussi quelqu'un avec qui on échange beaucoup en ce domaine. Nous avons pu partager une méthode éprouvée et expérimentée depuis bientôt une vingtaine d'années par des acteurs régionaux comme ceux de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou de la Lorraine ou du Languedoc-Roussillon, et qui nous permet effectivement d'aboutir à une approche très détaillée des éléments, notamment dans le domaine quantitatif, hein, sur les financements publics. Je me permets ici de dire que ce travail au sein de la conférence régionale du spectacle vivant, qui est un secteur, hein, parmi l'ensemble de ceux de l'action publique dans le domaine culturel, bénéficie, heureusement pour nous, et c'est pour ça que j'ai parlé de la présence conjoncturelle de Thomas Vrier et d'Antoine Ojard, d'une initiative prise en commun avec la Direction générale de la création artistique, de financer, parce que c'est une nécessité, parce que ça n'existe pas au niveau de l'État aujourd'hui, une étude sur 5 régions françaises pour connaître plus précisément le financement public des collectivités territoriales dans l'action publique de l'ensemble du champ de la culture. Évidemment, disposant de cette énorme ressource et des financements pour l'étudier, ça nous permet d'aller plus finement dans l'extraction de la connaissance concernant le spectacle vivant. Alors, ceci n'est pas un rapport d'étape, pas plus que ce groupe de travail n'est véritablement un groupe de travail où la connaissance se produit par la confrontation, l'échange et l'esquisse d'un certain nombre de pistes élaborées en commun, puisque ça s'appuie sur de la méthode qui existe en T, et donc ça va aboutir à de la construction, je pense, d'analyse et d'interprétation post-production de cette agrégation et de ces mises finalement en classement, en nomenclature, à travers un travail quantitatif et qui, pour ce groupe de travail, se limite à un échantillon d'une dizaine de collectivités, de la collecte des dépenses, de leur extraction, de leur classement, de la vérification, donc du reclassement d'un certain nombre de dépenses, à travers trois grands blocs, on va dire très simples, un bloc économique, tout ce qui est dépenses de fonctionnement, tout ce qui est dépenses d'investissement, un bloc action financée, donc ben les différents champs, là, très spécifiquement dans le spectacle vivant, ben, création, diffusion, voilà, enseignement, et puis un bloc bénéficiaire. Qui sont les gens qui sont financés, à commencer d'ailleurs, le plus souvent, par les services même des collectivités, pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Voilà. Ici, il y a véritablement échange. Hein. En l'occurrence, vous ne voulez certainement pas vous assommer avec la présentation d'un tableau qu'on a eu l'occasion de mettre un petit peu à l'épreuve dans le groupe de travail lors de sa réunion de novembre. Mais pour vous donner une indication, quand on traite une collectivité du type de Sainte, c'est à peu près 200 lignes qui sont renseignées. Quand on traite une collectivité du type de la région, c'est à peu près 2000 lignes qui sont renseignées. Hein? Donc, à travers ces différents codages. Vous imaginez, c'est à la fois un travail de fourmi, puis au bout du compte, c'est vraiment un travail de titan, quoi, qui est rassemblé là. Donc, c'est clair que ce qu'on livrera pour finir à travers cette approche quantitative, ça va être des choses extrêmement synthétiques qui vont tourner autour de moyennes par niveau, autour de médianes. C'est le plus grand groupement de collectivités sur un même registre. ça va tourner autour de notions qu'on débat, qui sont celles de l'euro culturel par rapport à l'euro dépensé dans la collectivité, l'euro spectacle vivant par rapport à l'euro culturel, l'euro par habitant. Vous voyez, des notions qui ne seront au bout du compte adoptées que si elles ont véritablement de la signification dans l'action publique. Ça, c'est le quantitatif. Et puis le qualitatif, on a bien vu à l'instant un débat commencer à émerger, par exemple, sur les différents rôles, les différentes casquettes, les différentes missions, les différentes injonctions, peut-être les différentes recommandations, attentes qui peuvent parfois exister pour un artiste, pour exister sur un territoire. Et le qualitatif est peut-être le seul élément qui nous permet d'approcher véritablement le vécu des acteurs, hein, qu'ils soient des médiateurs, qu'ils soient des maquignons, disait Joël Breton tout à l'heure, des entremetteurs, on a dit un temps, hein, qu'ils soient des bénévoles, des militants, qu'ils soient des artistes. Et donc, ce qui vient compléter cette approche quantitative, ce qui vient en donner finalement le sens du vécu, c'est l'approche qualitative, le recueil par entretien semi-directif de la perception qu'a l'acteur de l'action qu'il mène sur son territoire et de la diversité des champs dans lesquels il opère. Ça sera mes quelques commentaires sur la troisième diapositive. Et un peu, non pas la conclusion, le type de questionnement qui nous sont ouverts à ce jour du processus, c'est un processus extrêmement riche, parce que la ressource, elle est considérable. Là, ce qu'on vous livrera in fine au mois de juin, c'est un travail par échantillonnage. Hein, parce que on peut aller dans le détail, du détail et du détail. L'initiative, elle est considérable, elle est multiniveau et elle se produit absolument partout sur ce territoire. Mais il y a certainement un moment où on va trouver des récurrences. Et c'est ça qui légitime le travail par échantillon. Il faut, à un moment donné, se dire que telle typologie ou tel idéal type, on dit en sociologie, rencontrée, renvoie effectivement des situations comparables sur d'autres territoires ou pour d'autres acteurs. Donc il faut, dans cette richesse, ne pas se perdre. Voilà, ça c'est la première chose. C'est un travail qui a mis en évidence qu'il ne pouvait se construire sans une véritable coopération de tous. Des politiques, des techniciens des collectivités, et de l'ensemble des opérateurs, quel que soit leur niveau, hein, professionnel de la médiation, professionnel de l'art, mais aussi les bénévoles et les citoyens. Et là, on ne peut pas ne pas souligner qu'on est dans un contexte qui n'est pas forcément un contexte extrêmement favorable pour la coopération. Hein, et pour de multiples raisons, qui sont parfaitement objectivables. Et donc, nous avons rencontré et nous rencontrerons encore des limites pour accéder non pas à de la ressource quantitative, on peut toujours la trouver, les comptes administratifs, on peut les trouver dans une préfecture, c'est pas le problème, mais par contre, à un témoignage, à un partage d'éléments de vécu et de connaissance de l'action par les opérateurs eux-mêmes. Là, Pierre Blanc l'a évoqué en tout début d'intervention, le fait que pour le processus des conférences régionales, un certain nombre de partenaires sociaux ont souhaité ne pas en être, nous pose véritablement problème et va certainement produire une carence, au bout du compte, d'un certain nombre de témoignages qui nous semblent importants. On a toujours des voies de connexion, j'allais dire de détournement. On arrive toujours à dialoguer sur ce territoire, heureusement. Mais il y a des principes qui freinent un peu le processus. Sur le plan quantitatif, je vous donnerai aucune tendance à ce jour parce que Le travail est véritablement en cours. Il est très, très, très avancé, mais il nécessite véritablement aussi qu'on soit dans la... dans le partage, dans la confrontation, dans la comparaison avec nos collègues des autres régions et avec les collectivités. Une des réunions du groupe, je dirais, s'est tenue à Saintes et nous a permis, avec l'élu, avec la responsable du service culturel et avec un opérateur, d'affiner très précisément sur une situation. On a fait ce travail avec la région. On est en cours de vérification avec la DRAC, voilà, mais il faut encore qu'on aille plus loin, peut-être pas avec toutes les collectivités, mais qu'on ait comme ça un certain nombre de points de vérification pour s'assurer que ce qu'on produit est véritablement valide, tout simplement. Par contre, je vous dirais que dans les entretiens qualitatifs, on approche déjà un certain nombre de tendances, je vais les appeler comme ça pour l'instant, qui marquent bien que l'action, eh bien, plus elle a été négociée en amont, plus elle est contractualisée avec plusieurs niveaux de gouvernement, et plus elle fait l'objet d'une évaluation partagée, eh bien, plus elle a de chances de se pérenniser et d'être efficace. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement repérable. L'action, si elle s'articule sur le local, voire l'ultra-local, mais qu'elle est ouverte au national, voire à l'international, eh bien, plus elle a de chances, effectivement, d'aboutir. On ne peut pas viser que le national ou l'international, oublier le local et l'ultra-local. On ne peut pas se cantonner dans un horizon trop borné. Troisième tendance, beaucoup de choses sont évoquées par les acteurs qui permettent, et ça renvoie un peu à l'approche que vous avez eue dans le groupe Structuration et Réseau sur le développement durable, qui permettent d'imaginer qu'il est très important d'avoir de la transversalité. Effectivement, de ne pas rester enfermé dans le champ et effectivement de croiser aussi des mécanismes de l'ordre d'une économie sociale et solidaire et qui investit d'autres champs que le seul champ de l'artistique et de sa médiation. Et puis quatrième tendance, et je m'arrêterai là, on repère que pratiquement tous les acteurs sont en mesure de mutualiser un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, mais que peu l'opèrent déjà. Que cette capacité à la mutualisation n'est pas le plus souvent exploitée. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait finalement à travers ce travail ? Et ce qui sera produit dans la dernière ligne droite, je dirais, en partage avec le groupe, on affine, on renforce des outils de connaissance de la dépense publique et on met en partage, je crois, de façon qui ne vise pas à la modélisation ni à l'exemplarité, mais tout simplement à l'échange, la diversité, des modes d'action des opérateurs qui sont les bénéficiaires de ces financements publics. Ça demande qu'à être effectivement poursuivi régulièrement et mis en partage. C'est une autocritique que je ferai maintenant à cet endroit. Je crois que l'Observatoire, depuis de nombreuses années, que ce soit nos prédécesseurs ou nous-mêmes, produit, agrège pas mal de connaissances, mais ne trouve pas toujours le moyen de les mettre en partage. Alors, il y a des choses qui sont accessibles quand même à travers le site de l'agence et il faut aller les voir. Il y a des choses qui sont accessibles à travers ce qu'on écrit et qui sont diffusées à travers l'affût. Mais il y a certainement des formes d'appropriation par tous qu'on doit renforcer. Je crois que c'est ça notre enjeu véritable à un moment donné. Mais ça demandera aussi, à l'autocritique, je rajoute un peu d'incitation. À un moment donné, il faudra effectivement se coltiner certaines lectures de documents un peu détaillés, un peu fouillés, et se les mettre en partage. C'est un appel au peuple.
Bien, merci. Des questions, des remarques ?
Alors, une question qui me semble absolument fondamentale quand on commence à parler de financement public. Si on prend l'ensemble du monde associatif aujourd'hui, on sait que dans l'ensemble des ressources, et la plupart de vos structures, beaucoup de vos structures sont à statut associatif, les ressources moyennes de l'ensemble du monde associatif, donc évidemment tout secteur mélangé, sont de financement public un peu en dessous de 50%. Ça veut dire, soyons clairs, qu'à chaque fois que les pouvoirs publics, tout niveau, mettent un euro, la dynamique du monde associatif, et je ne compte pas le temps des bénévoles, qui est parfois fort, parfois faible, engendre un deuxième euro. Vous voyez que tout de suite, quand je dis ça, je ne regarde plus le financement public comme une espèce d'aumône que feraient les pouvoirs publics à des gens dont l'utilité peut toujours être questionnée, ou l'organisation, mais comme le fait qu'on a bien engendré une dynamique, y compris sur le plan économique. Et si je vous parle d'un secteur que je connais mieux, dans l'IAE, l'insertion par l'activité économique, ça a été fait dans plusieurs régions de France. Un euro apporté par les pouvoirs publics sous diverses formes génère, nous l'avons même vérifié il n'y a pas longtemps dans le Cognacel Rochefortais, 2,6 euros. D'où ma question maintenant sur le quantitatif, l'observatoire. Vous allez mesurer les financements publics reçus tout niveau par tel et tel type d'activité. Ma question est, quel était le contexte des autres financements mobilisés et engendrés, cotisations, autofinancement, recettes, mécénat, qui ont été drainés aux côtés pour et par ce financement public, ce que j'appelle moi, globalement, l'effet d'entraînement. Ça me semble absolument indispensable. Alors, ne serait-ce que pour aussi renforcer la position des acteurs, à dire, regardez, il n'y a pas eu que ça. Et pour dire aux acteurs publics, bien sûr, vous avez apporté ça, mais il y en a eu d'autres.
Bien sûr, Michel, la question, elle est non seulement légitime, elle a été envisagée. Elle est du côté des bénéficiaires, justement. La question, on peut... Non, mais là, dans notre processus, je ne dis pas que c'est complet. Mais pour l'instant, elle est située à cet endroit. Hein, donc, dans, bien évidemment, l'analyse des comptes et de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, comment elle se produit. Voilà. Et puis, quand on le peut, et ça, c'est véritablement, pour l'instant, au doigt mouillé, mais je crois que ces processus méritent d'élaborer de la méthode pour mieux les connaître. Et nous avons en ce moment... une stagiaire à l'Observatoire qui fait un master d'économie sociale et solidaire. Et voilà. Et ce qu'on lui demande, c'est de nous aider à produire cette méthode, justement. Tu vois. Alors, donc, premier élément, pour l'instant, limité à l'examen des comptes de résultats à travers la notion de valeur ajoutée. Donc, la production des ressources propres et effectivement, ces choses-là. Quand on le peut, parce que certains de nos bénéficiaires ont fait cette estimation que tu citais à l'instant de l'apport du bénévolat. Bah, il y a certains endroits, on sait, tu vois, et autres ressources. Voilà. Voilà. Mais c'est clair que cette dimension économique ne nous échappe pas dans sa nécessité. Mais on n'a pas encore...
économique, c'est que dans toutes les régions françaises, on est à peu près sur le même ratio. Ça veut dire qu'il y a une espèce de modèle économique implicite qui fait que 1 amène 2,6. Donc là, ma question serait, est-ce que la musique en draine plus que le chant, la danse ou autre, quoi.
Ça, c'est vache. Ah. Non, je disais, ça, c'est vache pour le téléphone. Mais la question, oui, non, elle reste posée. J'ai pas de réponse.
D'autres remarques, questions ? Bon.
Une petite précision quand même, cet outil de juste. Odile va poser une question après. Pour information, il y a une année de référence dans notre étude. C'est 2008 pour les financements publics, mais ça ne veut pas dire que cette grille de collecte et donc de classement n'est pas applicable pour 2009, 2010, enfin pour le... Voilà. Mais pour l'instant, L'outil se constitue autour de 2008. Pour les bénéficiaires, on leur demande de nous communiquer leur compte 2008, 2009, 2010. Le côté approche par les acteurs.
Odile, une question ?
Non. Odile, une question ?
Bien. Je vous propose, on fait 5 minutes de pause. On se retrouve à 12:15. A tout de suite.
Vous voulez bien reprendre place pour cette dernière partie. Donc pour cette dernière partie de notre matinée, c'est toi qui présente ça.
Je vais prendre 2 minutes.
Oui. Donc d'abord Philippe va vous présenter un petit peu les modalités de travail maintenant jusqu'à notre séance finale fin juin. Donc
bien, peut-être en quelques mots, vous donner un petit peu les options, les possibilités en termes de calendrier. Et également en termes de contenu, dire comment la restitution ou la forme de restitution est envisagée pour l'ensemble des 4 groupes. Déjà en termes de forme, ce qu'on a imaginé, c'est de réaliser un document écrit, une sorte de petit document de synthèse qui reprendrait. Je vais vous donner peut-être le plan, tout simplement, un document écrit qui traduirait un petit peu les réflexions de chaque groupe. Ce document serait en 2 grandes parties. Une première partie où il y aurait une introduction faite par un rédacteur, en l'occurrence ce serait Jeannie Rouget, qui reprendrait un petit peu les éléments de contexte généraux liés au spectacle vivant. Encore de cette synthèse, il y aurait 4 petites parties, où chaque partie ferait entre 2 et 4 pages, qui seraient une sorte de résumé, de synthèse des propos, des pistes, des orientations faites dans chaque groupe. À l'issue, il y aurait un dernier chapitre, qu'on pourrait appeler conclusion, perspective, qui serait également rédigé par un rédacteur extérieur au groupe, qui serait donc toujours Jeannie Rouget. Cette première partie formerait un document qui devrait être lisible et accessible par tout à chacun. Vos élus, vos connaissances, un professionnel qui se pose des questions, qui aimerait avoir une vision un peu d'ensemble, une vision globale. Voilà la première partie du document. La deuxième partie, qu'on appelle pour l'instant, entre les coordinateurs des groupes, une forme d'annexe, qui seraient des documents exhaustifs, développés, plus fouillés, des chiffres, des tableaux, des documents rédigés, qui seraient propres à chaque groupe, où chaque groupe aurait la liberté de compléter par tout document qu'il souhaite pour permettre au lecteur qui souhaite aller plus loin dans une question, dans une réflexion, dans une problématique, d'aller plus loin dans la réflexion, d'aller plus loin dans certains détails, dans des pistes, des chiffres, etc. Donc voilà un petit peu la forme qui est envisagée. Donc ce serait un document qui serait à votre disposition et à la disposition de l'ensemble des professionnels du secteur, qui aurait donc ces 2 parties, je me répète. Une première partie qui serait un peu une sorte de synthèse des différentes réflexions et questionnements des groupes, qui serait un document qui se voudrait le plus accessible pour, je vous redis, les techniciens, élus, professionnels et autres. Et une deuxième partie qui est vraiment une porte ouverte ou une main tendue à chaque groupe de pouvoir alimenter dans des annexes, de pouvoir développer tout comme ils le souhaitent vraiment. Cette forme nous a semblé importante simplement parce que chaque groupe a travaillé de manière différente. Donc il nous a semblé important au moment de donner une forme qui soit analogue à tous les groupes, mais en même temps aussi une forme qui permette à chaque groupe d'y mettre un petit peu sa patte ou sa signature. Voilà un petit peu sur le document tel qu'il serait imaginé. En termes de calendrier, là aussi, on a imaginé deux dernières périodes. La rédaction de ces petites notes, qui sont donc vos signatures, vos choses propres à chaque groupe, serait vers la deuxième, troisième semaine de mai 2011, pour permettre ensuite, entre mai, dans le mois suivant, donc entre mi-mai et mi-juin, de rédiger et de compiler, de corriger, de mettre en page le document complet, pour que dans la deuxième quinzaine de juin, il vous soit transmis par mail, tout simplement, en fichier en PDF, comme on dit, pour permettre fin juin une forme de restitution qui est à travailler cet après-midi lors du comité de pilotage du COREPS. Cette forme, pour l'instant, il n'y a pas de choses définies. Est-ce que c'est simplement un temps d'échange, un temps de débat, un temps de lecture? On ne sait pas encore, à voir un petit peu. Toujours est-il, je me fais aussi le porte-parole un peu des coordinateurs des groupes, il y a différentes hypothèses qui ont été évoquées, je vous les livre et puis ça peut faire alimenter vos échanges. Pourquoi pas imaginer dans l'année qui suit, par certaines thématiques, certains angles d'attaque, des rendez-vous pour continuer à réfléchir sur ce que vous aurez pu identifier, ce que vous aurez pu imaginer. Voilà des pistes. Pourquoi pas imaginer des dossiers de l'AFU plus spécifiques. Voilà une autre piste qui a été évoquée. Donc il y a différentes formes qui pourraient être imaginables sur comment poursuivre et comment s'approprier toutes ces réflexions. Voilà un petit peu les éléments un petit peu tels qu'ils sont aujourd'hui en cours d'élaboration.
C'est un document papier ou c'est un document en ligne ?
Alors il y aura un document en ligne et puis le document papier sera imprimé en fonction des besoins ou des envies.
Voilà, alors on a en fait moins de temps que prévu, mais on va prendre le temps s'il est nécessaire quand même qu'il faut, mais en tout cas... Comme ça, on peut se donner une petite demi-heure pour échanger, à la fois échanger largement sur le processus ou sur, effectivement, la restitution telle que vient de la présenter Philippe, ou plus largement sur les questions qui ont émergé au cours de cette matinée et sur lesquelles vous souhaiteriez peut-être revenir. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent manquer dans ce qui vous a été présenté ? Puisque nous sommes sur l'élaboration d'un ce qu'on a appelé un diagnostic partagé. Donc est-ce que dans ce diagnostic, tous les éléments vous paraissent être balayés ou est-ce qu'il en manque ? Voilà, toutes ces questions que nous vous livrons. Bon, quand on pose des questions générales, ça c'est toujours compliqué. Odile.
Merci. Donc Odile Pradenfort pour l'abbaye aux Dames à Saintes. Je voulais faire juste une série de remarques, quitte à me mettre toute la salle à dos, sur tout ce qui s'est dit ce matin, essentiellement sur la méthode. Il y a une notion qui m'a un peu gênée dans les quatre groupes. Alors, tout est à prendre avec beaucoup de précautions, mais c'est la notion de crise. Je crois que... Si on veut parler des non-publics, il faut avoir conscience de la vision que les non-publics ont de nos institutions, entre guillemets, et que quand on parle de crise dans la culture, il faut avoir conscience que c'est une crise qui est extrêmement relative pour l'ensemble des Français. Voilà. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque... Elle porte sur la représentativité des structures dans les quatre groupes. Si les responsables ne sont pas disponibles, je pense que ça serait une bonne chose que les équipes opérationnelles participent à ces débats parce que le point de vue serait différent. Je trouve que c'est bien que ce ne soit pas toujours les directeurs qui prennent la parole parce que les équipes opérationnelles ont aussi sur ces sujets-là, et je pense notamment à la question des publics et à la question de la médiation, des points de vue radicalement opposés quelquefois, ça peut poser problème, mais des prises de position à l'opposé de celles de leurs directeurs, et ça peut amener des débats riches. Et puis la troisième remarque, c'est... je pense qu'il faut se reposer la question de l'utilité de... Enfin, c'est pas l'utilité, mais l'utilisation qui va être faite de nos comptes rendus de réfection. Est-ce que c'est une utilisation purement régionale ou nationale et si c'est, une utilisation nationale, quelle chance avons-nous d'être entendus sur certains points ?
Alors peut-être sur cette question, oui Pierre, tu peux réagir.
Juste répondre et partiellement sur le dernier point, c'est clair que pour nous, la DRAC va diffuser les résultats de ses travaux au niveau national, sans doute je pense à toutes les DRAC, mais évidemment aussi aux administrations centrales et à tous ceux qui sont concernés par ce sujet-là. Je ne peux pas absolument vous assurer qu'il y aura des répercussions et des considérations immédiates, mais peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, on veillera évidemment à ce que ces travaux-là soient connus et valorisés autant que possible.
Oui, juste pour rebondir sur la question.
Tu te présentes, Guillaume.
Pardon, Guillaume Deschamps, directeur de la culture, ville d'Angoulême, agglomération du Grand Angoulême. Sur la question effectivement de la médiation, juste un petit élément d'information. Il y a un groupe structuré sur la ville d'Angoulême, informel mais structuré, de tous les médiateurs des structures culturelles présents sur la ville. Donc aussi bien structures municipales, d'agglomération, que du conseil général, ainsi de suite, qui se réunit de manière régulière, qui échange sur les pratiques, sur un certain nombre de questions qui ont été évoquées aujourd'hui, passage des publics d'une structure à l'autre, comment on touche les écoles, comment on fait venir du milieu rural des gens sur Angoulême quand ils viennent sur une journée, comment on les fait tourner sur les différents équipements, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'est des gens qui peuvent amener un autre point de vue que les directeurs de structure, qui ont leur point de vue sur la médiation, mais qui eux sont vraiment sur le métier. Donc ça peut peut-être être des gens à contacter pour aller un peu plus loin, effectivement, dans les réflexions qui ont été abordées et qui permet d'avoir, on est sur un territoire donné, mais effectivement une mixité de structures et d'expériences. Voilà, c'était juste un point d'information. Et après, un deuxième élément, effectivement, sur le rendu du compte-rendu, on a vu qu'effectivement, il y a des pistes de réflexion. Compte tenu de la représentativité des gens qui ont été interrogés, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du diagnostic, avec effectivement un certain nombre de points d'avancée ou de questionnement, une lettre d'intention qui pourrait être faite, puisque les conférences sont issues d'une réflexion qui a été lancée par l'État, dont laquelle les différents acteurs, en particulier le COREPS et l'agence, se sont ensuite investis et ont porté ces réflexions. Mais est-ce qu'il n'y a pas une lettre d'intention commune après, au niveau de la co-signature et du portage, je ne sais pas la forme que ça peut avoir, mais qu'on ne s'arrête pas forcément sur un diagnostic qui soulève des pistes de réflexion, mais qui aille peut-être un peu plus loin sur des préconisations qu'on a vues élaborer, mais peut-être de manière un peu plus scandée, un peu plus fortement affirmée en tout cas. Je ne sais pas si c'était l'attente de l'État d'avoir ce type de document, mais en tout cas, ça peut être aussi l'une des propositions des groupes de travail.
Je crois avoir dit peut-être succinctement tout à l'heure, mais qu'on est dans un cadre formel souhaité par le ministère de la Culture, qui s'appelle Conférence régionale du spectacle vivant, qui, sur ses travaux et dans cette forme-là, a une durée de vie déterminée, limitée, et qu'en gros, avant l'été, ces travaux-là doivent être terminés. Pour autant, ce processus, cette réflexion, les enjeux, les difficultés, et les éventuelles solutions ne seront pas forcément là dès le mois de juillet quand même. Donc tout ceci va forcément se poursuivre, et une des propositions que la DRAC fait de façon très explicite, c'est que ces travaux-là seront remis particulièrement à disposition du COREPS dans cette région, pour que sur cette base-là, le COREPS voit, et dans son autonomie de COREPS, pleine et entière, de voir comment il se les approprie. Est-ce que c'est pour le COREPS des bases qui peuvent avoir des suites dans des modes d'appréciation, d'appréhension, groupes de travail ou autres, ou réfléchir à des dispositions particulières que le COREPS sans doute déterminera, et on espère effectivement que les membres du COREPS pourront utiliser cette matière-là pour poursuivre ce travail de concertation et de réflexion partagée. Et on l'espère aussi quand même, ne pas toujours être seulement dans la réflexion, même si c'est agréable et intéressant de réfléchir, mais qu'à un moment donné, peut-être ça serve plus clairement encore peut-être à des prises de position, voire à des prises de décision à partir de ces éléments-là.
André.
Moi, je veux juste rebondir. Hein. C'est pas du tout apporter des réponses ni à Odile ni à Guillaume, mais rebondir. Je crois que Odile, c'est intéressant que tu pointes cette histoire ou cette notion de crise. Bien évidemment, si on pense par crise à une notion comme celle de l'effondrement des marchés financiers en 2008, ou par exemple à ce qui va suivre sans doute le tsunami au Japon en termes de reconstruction, c'est pas tout à fait l'image qu'on pourrait avoir de ce qui se passe dans néanmoins quelque chose qu'on pourrait qualifier d'en mouvement. En mouvement en termes de transition, en termes de tension et en termes de recomposition. Voilà. Ça, peut-être un peu plus dans la période actuelle que dans des périodes qui ont pu être plus stables et plus durables en amont. Voilà. Ça, dans ce sens, on pourrait quand même utiliser le mot crise, mais avec un petit C, quoi. Et sa relativité, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas au doigt mouillé, Pierre. Hein. C'est déjà un certain nombre d'éléments. La ressource, elle est très très importante. L'usage ne l'est pas moins. La diversité des modes d'action et la pluralité des acteurs aussi. Donc voilà, il faut quand même se dire que c'est plus une question de tension, de recomposition qu'une question de diminution et de perte en la matière. Mais néanmoins, on peut remettre ça dans la notion de crise, quand même. Guillaume, ce genre de d'information nous est extrêmement précieux, nous est précieuse. C'est clair que tout ce qui est de l'ordre de groupes informels mais structurés, de réseaux d'acteurs structurés, voire de moments de réflexion un peu organisés et transversaux, on demande qu'à en être saisi et voire à y participer. Parce que on demeure effectivement un endroit où on peut aller à la recherche de multiples ressources, mais il y a forcément des ressources qu'on ignore. Et si on n'en est pas saisi pour les agréger, voilà, on aura beau avoir cette volonté d'un travail de fourmi et d'exploration, il y a forcément des médiations qui sont les vôtres, qui sont nécessaires et qu'on doit aussi agréger. Pierre, je savais quelque chose, mais j'ai oublié entre-temps. Ah oui, si, le processus, bien sûr. Voilà, le processus, tu as raison. Tu es prudent de dire qu'on n'aura pas des réponses en juillet, et nous, on sera en prudent en réponse pour dire que, bien évidemment, ce mouvement ne va esquisser que des visions, non pas parcellaire ou fragmentaire, mais des visions qui demeurent en permanence à compléter et à ajuster.
Sylvie, notre élue de référence.
Merci. Donc Sylvie Barre, adjointe à la culture à Saintes. Moi, je voudrais dire d'abord que j'ai essayé de participer à un certain nombre de groupes, hein, deux sur les quatre, non pas par rapport à l'intérêt général, mais peut-être presque plus par rapport à un intérêt personnel, parce que ça m'a semblé être un moyen d'abord de comprendre un certain nombre de choses et de connaître un peu mieux. Par définition, un élu, ça ne connaît pas grand-chose. Et en particulier dans ce domaine, bon, on a beaucoup parlé d'économie ce matin, mais aussi d'action et de contenu, de médiation, etc. Parce qu'il faut essayer de s'y retrouver dans le schéma de vos fonctionnements d'une manière générale et puis dans le paysage du spectacle vivant. Donc bon, je voulais dire que voilà, c'est je suis là plus en encore une fois pour essayer de comprendre et puis éventuellement d'apporter quelques éclairages de ce que peut être la position d'un élu par rapport au spectacle vivant. Moi, il y a une chose qui m'a manqué dans ce qu'on a pu entendre des retours des différents groupes ce matin et en particulier du deuxième groupe sur la structuration artistique et culturelle et qui est compliqué pour nous élus, c'est je ne sais pas comment je vais formuler ça, c'est qu'est-ce qu'un artiste, à partir de quand on est artiste, comment un élu qui par définition, et je le répète, n'a pas de connaissances spécifiques dans ce domaine, choisit d'accompagner, de soutenir, de financer une compagnie, une création particulière, et comment voilà, on est souvent confronté à des sollicitations et c'est compliqué pour nous d'avoir un point de vue professionnel qu'on n'a pas et que c'est normal, c'est pas notre boulot. Mais enfin, on a parlé beaucoup de la diversité de la création artistique qui s'élargit de jour en jour, mais on constate aussi sur le terrain la multiplication des compagnies, des petites structures qui ont beaucoup de mal à vivre et qui se débattent dans des situations économiques compliquées. Voilà, on a du mal, vraiment, enfin moi je le dis franchement, hein, c'est parfois très compliqué de se positionner et de dire ben cette structure-là, je la soutiens parce que sa démarche, alors parfois c'est le côté médiation qui nous intéresse, c'est le côté élargissement des publics, mais le contenu artistique lui-même est parfois difficile à mesurer. Enfin voilà, je ne sais pas si... Bah, oui.
Catherine, attends. Attends, micro.
Oui, comme on n'a pas balayé tous les acteurs, c'est la question de l'expertise pour les collectivités, mais pas que, est une des questions qui a été soulevée, donc qui apparaîtra avec voilà, certains.
J'ai oublié de dire aussi la limite entre amateur et professionnel.
Mais il y a une solution très simple, c'est de prendre des professionnels et de s'entourer de compétences. Voilà, c'est très simple.
Non, mais je pense en tout cas au sein du groupe de travail, il y avait cette notion qui est apparue dans le deuxième tableau, ou je ne sais plus lequel, en tout cas de répertorier par rapport à la création, à la diffusion, la médiation, etc., des approches. Après, dans chacune de ces catégories, il est clair que on ne peut pas répondre. D'abord parce que cette parole, elle n'aurait rien d'universel. Et je pense réellement qu'il faut aussi prendre cette dimension d'universalité dans nos métiers. Or, la définition peut varier d'un pays à l'autre. Ne serait-ce que dans les statuts, voilà, et ne serait-ce que dans les genres artistiques. Il suffit pour un artiste plasticien ou un écrivain, il y a des références qu'on pourrait prendre pour définir s'ils vivent de ce métier ou s'ils n'en vivent pas, de quelle façon, etc., ce qui différencierait les professionnels des amateurs, et sans distinction de qualitatif qu'il a, est un domaine dans lequel, effectivement, la professionnalisation des réseaux prend une part importante dans cette définition. Et ces réseaux, ils sont divers et s'ils apparaissent par leur diversité, ils apparaissent à la fois par des formes de reconnaissance, de conventionnement, etc. Il y a quand même des moyens assez objectifs à un moment d'avoir le résultat d'une approche voilà, qualitative. Et donc les évaluations, on l'a souligné à un moment, elles sont déterminantes et elles doivent être une référence de prise en compte. On peut regretter aujourd'hui, malheureusement, les évaluations ne soient pas forcément un critère à un moment ou qui apparaît pour reconnaître tel ou tel lieu, voilà, ou tel artiste. Voilà. Et pourtant, alors évidemment, il y a là aussi des exceptions. C'est pas parce qu'on va beaucoup diffuser qu'il y a une qualité intrinsèque par rapport à quelqu'un qui ne va pas diffuser pour une compagnie, etc. Donc, mais il y a quand même des moyens objectifs que les collectivités ou un certain nombre d'organismes ont mis en place et en échange. Voilà. Alors, pendant que j'ai la parole, et puis évidemment, je n'aurais pas fait tout à fait mon boulot de le rappeler. En tant que représentant du syndicat des employeurs, à la fois Syndéac et SNSP, on a souhaité continuer de participer à toutes les réunions, et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Simplement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire aux représentants de l'État, plus de l'État que de la DRAC, nous avons regretté que dans le même temps, le ministère mette en place des conférences, elle aussi, en particulier, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais sur la culture pour chacun, alors que en même temps, il demandait et il construisait un débat en région, voilà. Je pense que c'est ajouter de la confusion à quelquefois de la confusion, et donc je ne suis pas sûr que dans les modalités du débat et ceux qui sont intervenus ou ceux qui ont souhaité se retirer, tout ça ait apporté beaucoup de clarté. Voilà, juste pour faire vite.
Alors, juste pour répondre à Madame l'élu, l'adjointe, moi, je pense pas que les élus ne savent pas grand-chose. J'en rencontre beaucoup et je rencontre des gens plutôt formidables, en tout cas. Je pense qu'ils demandent qu'une chose, c'est effectivement à nous rencontrer, à dialoguer avec vous. C'est toujours très agréable. Bien sûr, des fois, ça se passe pas. Voilà, c'est comme ça. Après, savoir qui est artiste, amateur ou professionnel, je pense que il y a des commissions d'experts avec des gens plutôt intelligents autour de ces commissions qui se concertent, des compagnies qui sont financées par la ville, l'État, la région, les départements. Donc, visiblement, ça veut dire que ces gens-là que les tutelles soutiennent, les tutelles estiment qu'ils portent une vraie responsabilité de sens poétique et politique. Voilà. Donc ça, je pense que c'est normal. Après, on est en France, donc le statut d'intermittent existe. Il y a des tas d'artistes qui vivent, qui font d'autres métiers dans d'autres pays dans le monde et qui sont des artistes aussi. Hein? Voilà. Moi, je crois que après, la difficulté, en tout cas en ce qui concerne la danse, c'est que les séries n'existent pas. C'est qu'on danse pas assez longtemps sur les créations et qu'on, du coup, on sait bien que le spectacle se fabrique avec la rencontre avec le public et que du coup, là, on est en manque. Et puis l'autre chose qui pourrait peut-être être un peu incohérent, c'est que des compagnies qui sont subventionnées par les tutelles, effectivement, ne trouvent pas audience suffisamment dans leur région. Voilà. Donc, voilà, je vais bien vous rencontrer. Hein.
Guillaume, on va peut-être prendre une ou deux questions, comme il est midi 30.
Ça a été effectivement abordé lors de du rendu des quatre groupes, la question de l'éducation. Je vais peser volontairement mes mots en disant que c'est l'élément, à mon avis, crucial, c'est pas l'un des éléments, mais l'élément de réponse cruciale à toutes les questions qu'on se pose. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit la médiation, le financement, la question de juger professionnel, amateur, la qualité, passe par l'éducation et passe par l'art à l'école. C'est-à-dire que plus on aura des enfants ouverts à toutes les propositions artistiques, plus les élus voudront fournir une diversité de spectacles à la population, moins la population sera choquée de recevoir certaines, enfin sera choquée, mais dans le bon sens du terme, de recevoir des propositions artistiques diverses et variées, donc on a moins de chances de formatage, enfin ainsi de suite. Et je dirais, on sait très bien tout ce qui est fait sur les quatre domaines, la base revient à l'école. Je pense qu'on est sur un modèle de société aujourd'hui, et c'est ce qui ressort des groupes de travail, ce modèle de société peut être remis en cause ou conforté par l'éducation en milieu scolaire, puisqu'aujourd'hui c'est la seule chose qui est obligatoire en France, c'est de passer par l'école de 3 à 15 ans. Je pense que l'élément de réponse, il est là. 3 à 15 ans, l'école est obligatoire en France. Si la culture ne rentre pas davantage dans l'école, si l'argent ne va pas davantage dans l'école, toutes les autres questions qu'on se pose demain, je le dis très solennellement, on n'aura plus de public. Les politiques ne montreront plus d'argent dans la culture, non pas parce qu'il n'y aura plus de besoin, mais parce qu'il n'y aura plus de prise de risque, il n'y aura plus d'attente des publics. Question de culture pour tous, culture pour chacun, ne se posera plus non plus. Voilà, je pense que là, on est vraiment sur... Moi, s'il n'y avait qu'une chose à dire, voilà, c'est ça. C'est l'art à l'école, comment, pourquoi, quels moyens. Est-ce que même les professionnels sont prêts à se dire il y aura moins d'argent les prochaines années, peut-être pour la diffusion, parce que les collectivités vont mettre de l'argent dans les écoles. Aujourd'hui, je ne pense pas que ni les structures, ni les professionnels sont prêts à entendre ça. C'est-à-dire le choix, est-ce qu'il y a vraiment un choix ou est-ce qu'il faut mettre plus ? On sait très bien que demain, on ne sera pas en capacité de mettre plus. Voilà. C'est plus des questions, mais c'est aussi un constat.
Alors, c'est l'occasion justement de préciser qu'il reste encore du temps de travail et qu'on a prévu justement un atelier sur la problématique de l'éducation artistique, qui est un peu transversale, en tout cas au groupe enseignement artistique et médiation, et qu'on a prévu une date qu'on peut vous annoncer tout de suite, c'est... Non. Le 3 mai, c'est votre réunion, c'est une autre date. C'est début mai aussi. Émilie. C'est le 13 mai après-midi, vendredi 13. Ah, un vendredi 13. 13 mai après-midi, donc réunion du groupe Éducation artistique, et vous êtes tous invités, bien sûr, à y participer, au cours duquel on partira aussi du travail qui avait été fait par un groupe précédent qu'on avait appelé Conférence régionale éducation artistique, qui avait initié le CFMI. Donc on partira aussi des travaux qui avaient déjà été faits dans ce domaine et pour essayer de les compléter et évidemment de faire des propositions. Voilà, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Parce qu'on va peut-être, je pense qu'un certain nombre d'entre vous souhaiteraient... Je vais juste... non pas conclure définitivement, mais apporter quelques éléments de conclusion. Alors, juste, je sais pas, on a annoncé la date de la plénière, tu l'as...
Probablement le 28 juin.
Oui, c'est important de noter quand même que la restitution finale de tous ces travaux se fera le 28 juin, probablement, hein, parce que évidemment, c'est sous réserve de la présence... en particulier du DRAC, si possible. Et a priori, ça fonctionnerait. Et puis, d'un élu de la région aussi. Et que donc, pour vous dire aussi, mais vous le savez déjà, que c'est ma dernière intervention en tant que directeur de l'agence régionale. Non pas que je ferai une intervention là, pour la restitution finale, mais ce sera un autre titre cette fois. Et que vous le savez sans doute aussi, que la personne qui va prendre la direction de l'agence est présente dans la salle, puisqu'il s'agit d'Anne Gérard. Alors, Anne, voilà, vous la connaissez tous peut-être en tant qu'élue, mais elle va ajouter donc cette casquette. c'est la nouvelle directrice donc, de l'agence régionale du spectacle vivant. Alors, pour rappeler un petit peu d'abord dans quel contexte l'agence s'est inscrite dans ce chantier de la conférence régionale du spectacle vivant. Ça a été rappelé au début par Pierre en particulier, mais je voulais quand même rappeler que c'était évidemment un chantier qui a été réellement mûrement réfléchi et qui est constitutif quelque part du travail d'une agence régionale du spectacle vivant. Et qu'il y a eu un débat au sein du conseil d'administration au moment où l'État, donc la DRAC, nous a demandé de prendre en charge l'organisation de cette conférence. Et pourquoi, évidemment, il y a eu un accord du conseil d'administration? C'est parce qu'on était pleinement dans le rôle de ce qu'est une agence régionale. Un de nos amis au sein de la plateforme interrégionale qui regroupe toutes les agences a défini notre rôle comme celui d'un médiateur institutionnel, ce qui apparaît être une assez bonne définition de ce qu'est une agence régionale ou une association régionale aujourd'hui, dans le sens où elle est l'outil de médiation à la fois de coopération entre la puissance publique, l'État et la région en particulier. Dans certains autres cas, il y a d'autres agents de la puissance publique, et puis de la médiation entre la puissance publique et les acteurs de terrain que nous sommes tous. Et que, évidemment, dans les missions d'une agence, fondamentalement, il y a d'abord cette mission de connaissance, d'observation. Alors l'observatoire est l'outil principal de la connaissance, mais globalement, l'agence, dans son entier, participe à la connaissance du territoire, des acteurs et des enjeux du spectacle vivant. Et que cette mission, elle s'accompagne aussi d'une mission de concertation, de mise en réseau et d'accompagnement. Et là, on est pleinement dans cette mission de concertation. Dès 2006, dans le projet de l'agence, j'avais proposé que le terme de conférence apparaisse. C'est à l'époque où on avait organisé nos travaux de concertation en conférence régionale de l'enseignement et de la formation artistique, CREFA, conférence régionale de la création et de la diffusion, conférence régionale de l'éducation artistique, qui est venue plus tard. Mais c'était bien ce terme qu'on avait pris, dans le sens où c'est le temps de rassemblement des acteurs et des représentants des pouvoirs publics qui, ensemble, essayent de réfléchir à donc une à la fois la meilleure connaissance et une structuration de l'ensemble de ces domaines. Et donc, quelque part, la demande institutionnelle de l'État nous a donné l'occasion réellement de formaliser les travaux de ces conférences et de les rassembler d'une manière un peu différente, mais qui reprenait l'essentiel de nos chantiers précédents. Alors maintenant, quel usage faire de ces travaux? Donc on en a parlé longuement, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en l'occurrence, il ne s'agit évidemment pas d'une copie que l'on va rendre au ministère. Hein. C'est bien ensemble, dans un processus déjà existant et qui va continuer, comment faire en sorte de mieux comprendre ce qui se passe sur un territoire donné et dans un domaine donné, qui est celui du spectacle vivant. Donc, l'intérêt, évidemment, du travail, et personnellement, moi, j'ai toujours beaucoup insisté là-dessus, c'est sur le fait qu'une agence régionale n'est qu'un outil. C'est l'outil de l'appropriation. Elle n'est pas une structure en soi, elle est bien au service à la fois des pouvoirs publics et des acteurs du territoire et de leur relation, de leur mise en relation qui permet ensemble à la fois de mieux se connaître et on l'espère aussi d'avancer ensemble. Donc on espère bien que les travaux qu'on a définis comme étant un diagnostic partagé ne vont pas s'arrêter là, hein, c'est pas un aboutissement, c'est bien sûr un jalon, on l'a dit, mais il faut le redire et le réaffirmer, un jalon qui, on espère par la suite, permettra de nombreux autres développements, que ce soit dans le cadre du COREPS, puisque c'est quand même l'outil de concertation principale, mais aussi peut-être dans d'autres cadres. Et quant à, par exemple, une lettre d'intention commune que tu souhaitais, je pense que on n'est pas dans ce contexte-là. On est bien, c'est l'agence régionale qui assume la responsabilité de la production écrite ou qui va être rédigée, en particulier pour la restitution. Et c'est ensuite à chacun des acteurs de s'emparer de cette restitution pour en faire ce qu'il jugera bon ou ce que nous jugerons bon ensemble. Alors, quant à maintenant le fruit un peu de tous ces travaux, alors évidemment, c'est impossible à ce stade de tenter une synthèse, d'autant plus que pour ma part, ça demandera une disponibilité que je vais avoir dans les mois qui viennent pour essayer de de voir quels sont les liens entre tous ces chantiers. Néanmoins, il y a peut-être quelques pistes déjà d'éléments qui ressortent, qui paraissent transversaux à l'ensemble des groupes. Il y a sans doute la question de la spécificité de la région. Seul le groupe Eric l'a signalé, mais il me semble quand même que ça ressort globalement en filigrane de tous les travaux. Et peut-être que tenter de définir pourquoi cette région est spécifique sera quelque chose, une opération peut-être intéressante à tenter dans cette synthèse. Et ça sera aussi une forme de réponse à la question, mais est-ce que c'est un enjeu national qu'on vise ou un enjeu régional? Parce que c'est évidemment à la fois un enjeu régional, d'autant plus qu'on est dans cette région qui a certaines spécificités. Et puis, si ça peut être utile nationalement, évidemment, ce sera bienvenu. Mais je pense qu'il faut bien, du coup, resituer les enjeux de ce travail dans ce contexte-là. Alors, après, un certain nombre de questions traversent tous les groupes. D'abord, l'approche doit-elle être sectorielle et certains secteurs ne sont-ils pas un peu oubliés? Alors, le secteur de l'enseignement artistique a dit, mais on se réjouit finalement qu'on ait bien été questionné en tant que tel parce qu'on a tendance à nous oublier, mais peut-être que d'autres secteurs peuvent se poser les mêmes questions. Donc, cette approche sectorielle, elle est un outil, évidemment, de réflexion, mais on ne doit pas se limiter à cette approche sectorielle. C'est bien pourquoi, évidemment, on entendra une synthèse. Il semble qu'il y a, globalement, quand on analyse ce qui est appelé problème, ou quand on problématise des situations, il y a des éléments qui relèvent du structurel, on va dire, et des éléments qui relèvent peut-être, non pas du ponctuel, mais d'un mouvement, comme on l'a rappelé. Alors, dans les problèmes structurels, certains ont tenté de les définir, hein, que ce soit les problèmes de reconnaissance, les problèmes d'aménagement du territoire, les problèmes d'égalité ou d'inégalité, les problèmes de légitimité aussi. Il y a aussi, je pense, plus fortement les problèmes aujourd'hui liés à ce mouvement, à cette crise. Alors, crise, vous savez, alors, le terme d'origine de crise, c'est mutation, en fait, hein. Crisis, c'est donc qu'est-ce qui aujourd'hui est en changement, est en évolution et qui fait qu'on est obligé de se reposer toutes ces questions de ces mutations, qu'elles soient d'ordre économique, hein, on a parlé du contexte économique et puis aussi du modèle économique du spectacle vivant qui est souvent réinterrogé, que ce soit les mutations sociales aussi, l'individualisation des tas d'éléments qu'on a rappelés, des éléments technologiques aussi, hein, l'importance que peuvent avoir les nouvelles technologies et en quoi elles influent aussi sur des esthétiques, la question donc de ces nouvelles esthétiques et la question du pacte même, hein, vous avez parlé du pacte institutionnel, qui est, au bout du compte, une question forte qui est posée dans le domaine des politiques culturelles. Après, tous, évidemment, vous avez situé l'enjeu de la connaissance comme étant l'enjeu majeur, en fait, quand même, au bout du compte, de ce travail. Comment identifier l'ensemble donc des problèmes, mais aussi parfois de mieux identifier les rôles, les fonctions, les missions. Donc on a l'impression qu'il faut d'abord peut-être séparer avant de renouer pour mieux comprendre. Bien séparer, c'est le groupe structuration, qu'est-ce qui est le rôle de chacun dans ce paysage. On peut l'élargir d'ailleurs sur le paysage global du spectacle vivant, puisque même un établissement d'enseignement artistique a aussi une fonction parfois de création ou de diffusion. Et parfois, des établissements de diffusion sont aussi impliqués dans la formation. Enfin, il y a l'ensemble de ces questions pourraient être posées plus largement. Donc, bien identifier, clarifier, pour mieux connaître, évidemment. Et derrière, il y a peut-être aussi une connaissance de ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux de la culture. Alors, c'est évidemment Michel Adam qui nous tourne toujours vers ces questionnements fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la culture et qu'est-ce que c'est que, globalement, créer, apprendre, transmettre, ça veut dire quoi? Donc, quelles sont les grandes valeurs et les grands principes qui nous régissent? Ma question, moi, dans la synthèse que je pourrais rédiger, c'est est-ce que ces questions-là, il faut les mettre en premier ou plutôt en dernier ? Parce que, évidemment, en permanence, on y est confronté. La question reste ouverte. Hein. Mais globalement, en tout cas, je pense qu'on participe à un questionnement toujours, un questionnement plus large qui est celui de la société entière et du rôle de la culture. Pour poursuivre ce que disait Michel Adam, il y a une formule que Catherine Trottmann emploie souvent pour dire « la culture, c'est l'humanité de l'humain », dans le sens où c'est ce qui nous tire justement vers l'humanité. Et c'est une question, là, du coup, fondamentale en soi, parce qu'elle pose la question de la légitimité de notre travail, mais aussi qui est fondamentale pour les travaux que nous pouvons accomplir ensemble. Alors après, il y a des tas de questions aussi qui restent transversales. Donc la question des médiations fait débat. Elle traverse, je crois, en fait, tous les groupes, la question des médiations, même si un groupe spécifique l'a formalisé. Mais il faudra, au travers, je pense, de l'ensemble de ces chantiers, questionner tout ce que ce groupe a fait sur toutes les réflexions du groupe, croiser avec les réflexions de chacun. La question des évolutions, donc on en a parlé, bien sûr. La question des territoires au sens vraiment à la fois symbolique et géographique. Territoire et frontières, a dit Eric. Mais réellement, il y a bien une volonté à la fois d'analyser en soi chaque territoire, donc séparé, mais aussi analyser ce qui fait qu'il y a disparition des frontières et connexion et quelque part articulation. Alors cette question de l'articulation, elle est revenue dans tous les groupes. Le mot a été employé par tout le monde. C'est bien articulation, que ce soit au sein de chaque secteur, entre politique culturelle. Articulation, meilleure articulation, compréhension des articulations et comment améliorer les articulations, arriver peut-être à des coopérations et voire peut-être à des mutualisations. C'est tout le sens des préconisations qui pourront être faites. Voilà un petit peu esquissé comme ça. Quelques questions jetées un peu à la volée hein, au fur et à mesure de vos interventions, mais qui mériteront d'être approfondies dans les synthèses qu'on tentera d'en faire pour le 28 juin. Voilà un petit peu. Bon, je pense qu'on va aller manger, Philippe, ensemble, pour ceux qui restent déjeuner. Et puis, je vous le dis comme ça, off, c'est ma dernière intervention comme ça dans ce cadre-là. J'en ferai une dernière pour un pot de départ. je le dis à la volée parce que certains n'ont peut-être pas reçu l'invitation. Le 5 avril à l'agence régionale à 18h, hein, si vous avez l'occasion, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et puis on aura l'intervention ce jour-là exceptionnelle d'un représentant du secrétariat d'État à la démocratisation culturelle, M. Bruno Delaroche, que certains connaissent peut-être déjà. Mais
spécialement.
Bien, messieurs, dames, merci. Au revoir.